Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 2 avril 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jah Dead et à 17h, FMR, c'est l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici...
Non, c'est pas celui-là.
Précédemment dans le supplément week-end.
Quoi, tu vois, au contraire, c'est aussi, ce sera bien aussi peut-être de montrer ça aux Japonais qu'on les oublie pas, même si il y a les secouristes et tout ça, mais c'est autre chose, quoi.
Gag.
Hein ?
J'ai pas compris, gag. T'as pas compris ici ? Non.
C'est le supplément week-end ! Mais c'est le générique fait par l'œuf dupe de l'œil du cyclope, comme ça, pour déconner.
Ah, c'est de plus en plus étrange cette émission.
Mais on fera une spéciale le 11 novembre, spéciale l'œil du cyclope. Parce qu'on aura des retours tout ça. Bonjour, c'est le supplément week-end du 2 avril 2011. Et s'il fallait commencer par un gag, c'était un gag loupé. Voilà, merci à tous. Bonjour et bienvenue, surtout bonjour et bienvenue eh ben, à Raphaël Goncalve. Et Goncalves, j'y arriverai quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et Sébastien Laurent.
Laurent, tu écorches son pseudo à chaque fois. Parce que Rafi, ça s'écrit pas PHY.
C'est FY.
Voilà.
Attends, on a raté comment il t'avait prononcé ton nom. Attends, vas-y, on fait.
Laurent.
C'est Laurent.
Bonjour. Bonjour et merci au co-organisateur du Toulouse Game Show, puisqu'on est à une semaine du TGS One Ami. Merci énormément d'être venu, parce que là, franchement, je suppose que vous êtes à la limite.
C'est compliqué en ce moment.
C'est extrêmement compliqué et pas pour rien. Puisque
à la limite de l'ulcère.
Oui.
C'est pas évident quand même de faire notre programme annuel spécial Japon à un moment aussi... compliqué et faire d'une manière aussi décomplexée que les années précédentes pour les circonstances que, ben voilà, on sait tous. Alors, bon, on en a déjà parlé il y a 15 jours, notamment avec Jean-David Morvan, dont on vient de réécouter l'interview, puisque c'était une interview qui a été enregistrée 48 heures après la catastrophe. Il était encore à Tokyo à ce moment-là. Mais ce qu'il faut retenir peut-être de ce que l'on a déjà dit, c'est que l'état d'esprit japonais de ne pas montrer de manière visible ses émotions et plutôt de continuer business as usual. C'est pour ça un peu, ça peut surprendre, mais Akata, qui gère le catalogue manga pour Delcourt, n'a pas souhaité décaler le premier tome de Tokyo Fin d'un Monde, qui va donc sortir normalement dans une semaine. Il serait difficile de traiter quand même Dominique Véret d'opportuniste, de sans-cœur et surtout d'ignorant du Japon, puisqu'il a été le cofondateur des éditions Tonkam. Ça a été vraiment la personne qui, après Glénat, a amené une vague de manga vraiment différente de ce que l'on aurait pu connaître par les dessins animés, et il connaît bien leur mode de pensée. Alors justement, on voulait savoir un peu plus maintenant, à une semaine, ce qui va se passer au TGS Wanami, comment ils vont gérer tout le reste. C'est pour ça que ils sont venus et on les en remercie. Mais avant ça, on va faire rapidement la revue de presse, rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose, je vais dire, de transcendant. Le zoo numéro 31 de mars-avril est consacré fort logiquement au Salon du Livre, puisqu'il est sorti il y a 15 jours, qui est disponible gratuitement dans toutes les supérettes culturelles. Et le Psychopathe à 4,90€ sans pub ne comporte que de la publicité pour la Corée du Nord et la Libye, c'est rigolo ça. Mais Thomas, de ce côté, il a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est édité par quelqu'un qui est dans la culture manga depuis un certain temps et qui s'est associé avec, comme c'est bizarre, Ankama.
Ankama Press cette fois, c'est plus Ankama Édition, donc ça s'appelle Akiba Manga, donc c'est un périodique, c'est un mensuel. Donc ça c'est le tome 2, celui de mars 2011, et oui je retarde un peu, en même temps on est que le 2 avril, alors j'ai très peu de jours de retard. Donc il est à 4,95€ en kiosque. Alors ça relance l'éternel problème des magazines de prépublication en France. Est-ce qu'ils ont toujours leur place? Est-ce que ça va toucher le public? Alors évidemment, vous me dites magazine de prépublication de manga. Alors les plus... pas les plus jeunes, les plus geeks, les plus trentenaires se souviennent peut-être de Kamea Magazine ou de Manga Player.
Il n'y a eu que 3 numéros hein, de Kamea.
Moi, j'ai pas connu.
Kamea, je pense pas. Hein,
attends, non,
6,
pardon. Je confonds avec, avec Player One Manga qui, non, non, qui manga... avait été de la même équipe.
Non, non, Manga Player, c'est. Ben justement, j'en parle dans la chronique.
Il
y a,
bon, d'accord, ok.
Y a,
y... Moi, il a cherché.
Je
l'ai cherché.
J'ai la collègue chez moi, alors tu vas pas me faire croire qu'il y a que 6 numéros. Hein. En plus, ils avaient publié du Ghost in the Shell, tu devrais le savoir. Oui. Alors voilà, donc Akiba Manga, donc le principe, ben, c'est comme tout magazine de prépublication de manga, donc il y a 7 créations originales, c'est un système de vote, les séries les plus plébiscitées donc restent, celles qui virent sont celles qui ont le moins de votes, et qui sont remplacées par autant de BD, donc il y aura toujours 7 séries à suivre. Alors, je
c'est
sais
un
que
système
ça...
de vote, il faut préciser, que c'est celui qui existe au Japon justement dans les revues de prépublication.
Voilà, et donc là on peut aussi soutenir les auteurs en votant, aussi sur le compte Facebook de l'éditeur, bon voilà. Le principe aussi, c'est que le scénariste est français, enfin les scénaristes sont français et le dessinateur japonais, donc ça fait une collaboration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages de métis franco-japonais dans les histoires qu'on voit. Je dis, tiens, c'est bizarre, et puis c'est à la fin qu'il y a, ah ouais, d'accord. Bon, les scénaristes sont français, c'est ok. Ça, c'est une info qui n'intéressera pas Xavier du tout, mais vous savez que, enfin, sachez que vous pouvez retrouver un manga original de Shingo Araki, qui est le character designer de Chevalier du Zodiac, qui avait réussi à faire passer la pilule, bon, le style de Kurumada étant ce qu'il est, il y a beaucoup de gens qui ont été accro au style de la série, pas du tout au manga. Et là,
c'est
et
le
là...
grand écart. Hein.
Alors, c'est ça, moche. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve, alors là, c'est qu'on retrouve parfaitement, on dirait du Seiyar tout petit, mais en fait, le style, c'est pas du tout la même chose, c'est de l'aquarellé, c'est onirique. Moi, franchement, ça m'a plu. C'est un peu déconstruit au niveau narratif, je sais pas trop ce qui se passe, mais ça se passe grosso modo dans la tête de quelqu'un qui aurait à livrer des pages de manga en retard. Alors on le voit en petit, on le voit barbu après sur la fin de sa, un peu plus sur la fin de sa vie. Donc voilà, donc c'est très marrant parce qu'on croit voir du Seiyar de partout, mais en fait c'est le style. Moi je trouve ça fonctionne pas mal. Donc c'est là qu'ils veulent.
Je crois qu'il avait dit dans une interview que c'était des planches que l'auteur avait depuis un certain temps chez lui. Et qu'il désespérait un jour de publier pour montrer justement son style sur ce type de travail.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire sur un travail qui est justement pas fait, je veux dire, à l'encre, en catastrophe.
Donc sur les 7 créations originales, donc à chaque fois, chaque auteur doit livrer 20 planches de manga par mois. Sauf qu'il y en a, il y a un fou qui a dit « moi je fais 2 séries ». Donc il a livré 40 planches dans le mois, sauf que le truc c'est que ce mois-ci il est tombé malade pendant une semaine. Aïe, donc il y a un petit mot de l'équipe dans Kama Press qui disent « bon, soyez indulgents, il s'est arraché pour que vous ayez sa série quand même ». Voilà, donc c'est assez inégal. Moi, il y a 2 séries qui ont un peu retenu mon attention. Il y en a une qui s'appelle Terminus, donc de Katsura Takada. Donc c'est une chronique un peu mélancolique et attachante sur une jeune lycéenne qui tombe amoureuse d'un gars un peu mystérieux. Sauf que toute la série se passe, c'est un flashback, et ça se passe quelques mois avant qu'elle se jette sur les rails devant un train. Donc c'est assez... En fait, la série n'est pas glauque du tout, c'est juste en ayant dans le postulat de base, dans un coin de la tête, qu'elle va se jeter sur le rail d'un train, alors que rien ne la prédispose à ça. Moi, j'ai vachement aimé cette série, et il y en a une autre aussi qui s'appelle Agent Suicide. Alors là, c'est pas du tout le même truc. C'est un truc super violent, très agressif et nerveux, donc c'est un jeune qui erre dans les... C'est un jeune ibérique qui traîne dans des favelas ou dans des quartiers malfamés du Nord. Je vais essayer de vous retrouver les pages. Et dont toute la famille a été massacrée.
C'est bien parce que pendant qu'il voit ses pages, justement, on voit tous les styles graphiques et il y a vraiment un panel graphique très différent. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas payé à redevance couleur. Qu'aussi c'est en noir et blanc.
Voilà, donc ça c'est une série avec un trait super agressif. Alors ça s'appelle Agent Suicide. Alors apparemment c'est une caste de mecs super bizarres et super mystérieux à travers le monde qui guettent des gens qui sont un peu suicidaires et un peu au bout du rouleau pour les enrôler dans une espèce d'agence. Alors après, pour l'instant, c'est juste le deuxième chapitre, on sait pas trop de quoi il retourne, hein. Voilà. Donc en tout cas, ouais, il faut souligner l'intention de base de ce truc, de Akiba Manga. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé au Japon, je sais pas s'ils vont pouvoir continuer à livrer les planches à temps. Ah, en tout cas, si ça intéresse quelqu'un, je vais rappeler la référence. Donc Akiba Manga, c'est le numéro 2, 4,95€ en kiosque, et il s'agissait du numéro de mars. Voilà.
Oui, on fait. Au dernier décompte d'ailleurs au Japon, il y aurait 27 000 morts et disparus. Et les forces d'autodéfense japonaises estiment qu'il y a encore. Ils savent pas trop combien de cadavres il leur reste encore à retrouver, mais ils estiment que c'est entre 300 et 1000. plus sa situation qui est toujours très inquiétante à Fukushima. Enfin, du coup, très inquiétante pour nous en France parce que, ben voilà, au Japon, ben ils semblent faire avec. Ils ont déjà un pays à reconstruire. Alors, Sébastien, Rafi, je ne sais pas quel est justement, puisque vous avez des relations avec des associations franco-japonaises, avec des industriels japonais de ce côté-là, est-ce que vous avez réussi à les avoir au téléphone depuis, ou comment vous sentez en fait dans leur correspondance, en fait, quel est leur état d'esprit ?
Alors en fait, nous, on a la chance de pouvoir côtoyer des gens, des représentants de la ville d'Osaka, par exemple. Mmh. Effectivement, c'est des gens qui ont subi un lourd préjudice, quoi. Je veux dire, c'est clair qu'on ne peut pas dire que ça soit un moment hyper sympa de leur existence, mais... Ils sont pas non plus défaitistes. C'est des gens qui veulent voir en avant et qui veulent surtout ne pas se laisser tomber dans. Ils veulent pas baisser les bras, ces gens-là. Alors ils essayent de mieux faire comprendre leur situation en France, parce que c'est vrai que par rapport aux médias, ce qui est dit en France sur les grandes chaînes télé ou sur les grandes radios, c'est pas forcément la même chose. Nous, il y a qu'à voir, hein. C'est vrai qu'on a des relations avec le Centre culturel franco-japonais qui, pendant la période où on en a beaucoup parlé à la télé, a fait du teasing avec par rapport à la NHK, parce que lui, donc, du coup, regardait la NHK. Donc déjà, attention, ça veut pas dire que c'est la vérité vraie, hein. Ça veut dire juste que c'est les informations japonaise, et déjà on s'aperçoit qu'il y a un décalage avec ce qui est annoncé en France. Après, voilà, donc le pays a subi plusieurs lourds préjudices, plusieurs séismes. Nous on n'en a parlé que du premier parce que c'est celui qui a
été le plus important.
C'est le plus important et
c'est lui qui a provoqué effectivement le tsunami.
Le tsunami qui était juste derrière.
Le principal tsunami, voilà, puisqu'il y en a eu plusieurs.
Après, c'est vrai qu'il y a eu un autre séisme, il y en a plus de 6. Je veux dire, rien que le deuxième séisme qu'on a à peine. On l'a à peine nommé, je veux dire, qu'il serait arrivé tout seul, ça aurait été une catastrophe déjà. Là, on n'en a pas entendu parler, alors que c'est arrivé juste après. Enfin, voilà, moi je suis. Après, moi je ne suis pas dans leur situation, c'est vrai que moi je suis en France, bien au chaud. Mais il y a des choses qui nous. Enfin, grâce à notre. On va dire, à nos relations qu'on peut apprendre. Notamment, par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas trop fait en France quand c'est arrivé, on n'a pas. Trop vu, par exemple, l'écart de température. Nous, on se dit, tiens, il y a eu un séisme, un tsunami, mais il faut penser que là-bas, il faisait 5 degrés. C'est pas comme nous, maintenant, à l'heure actuelle, quoi. Aujourd'hui, surtout nous,
avec il fait 26. Avec des nuits à moins 10 et des maisons qui sont déjà très mal isolées, déjà, à la base.
C'est des conditions hyper particulières. Et après, ils ont d'énormes problèmes au niveau des ravitaillements, parce qu'en fait, les infrastructures au niveau routière ont été complètement saccagées pour... Enfin, en tout cas, celles qui doivent arriver jusqu'au lieu vraiment qui en ont besoin. Du coup, ils sont très embêtés parce que toute la communauté internationale se mobilise pour envoyer de la nourriture, des affaires, des vêtements, des choses comme ça, des jouets pour les enfants, des choses. Mais le problème qu'ils ont, c'est que tout ça arrive effectivement au Japon, mais va arriver à Osaka ou à Tokyo, mais ne peut pas être redispatché à une vitesse suffisamment satisfaisante parce que justement ces infrastructures sont complètement en chaise. Donc actuellement ils ont des soucis de stockage. Enfin, moi c'est clairement ce que nous a dit le représentant de la ville d'Osaka, et ils sont en train de faire tout ce qui est possible pour remettre en place la circulation pour que les véhicules humanitaires puissent amener l'aide sur les zones, c'est vraiment sinistré, quoi.
Et donc si l'aide matérielle pour l'instant est un peu bloquée en raison des soucis de stockage, la meilleure façon de les aider, c'est quoi? C'est de donner à la Croix-Rouge.
Alors la Croix-Rouge, c'est vrai que la Croix-Rouge a fait un partenariat avec la NHK, la Croix-Rouge Japon, hein, je parle, hein, a fait un partenariat avec la NHK qui fait que on est sûr que ce qui est donné à la Croix-Rouge Japon va bien pour cette catastrophe.
T'as la même chose en France, et d'ailleurs ça pose problème justement vis-à-vis de certaines associations quand il y a trop de dons pour certaines causes où il n'y a plus à dispatcher.
On n'en est pas là, hein, parce que
mais
trop
on
de
en
dons
est, en France ça a été assez pitoyable.
Y a pas le problème qu'il y a, c'est que c'est au Japon, donc les gens pensent que le Japon c'est une grande nation super riche, donc il n'y a pas moins besoin de donner, alors que ça n'a rien à voir, quoi. En fait, quand il y a une catastrophe, il faut être généreux, quoi. Point. La Croix-Rouge française d'ailleurs ensuite a pris le pas par rapport à la Croix-Rouge japonaise, et donc eux aussi ont ouvert un compte en direct pour que les dons aillent directement vraiment pour cette cause là. Donc c'est pour ça que nous on s'est associé avec la Croix-Rouge pour faire plusieurs choses dans ce sens là quoi.
D'un autre côté, est-ce que tu penses que finalement le meilleur moyen justement de les soutenir de ce côté-là, c'est d'essayer de garder l'esprit festif ou justement de se dire il vaut mieux avoir des instants de recueillement et mettre un petit peu de calme.
Alors je sais pas si tu sais, nous bon effectivement nous le salon effectivement on fait pas un salon, nous on est là pour pleurer effectivement, je vais pas mentir aux gens, c'est un salon festif à la base, sauf que on ne peut pas rien faire par rapport à ce qui s'est passé humainement, c'est pas possible, hein. Enfin moi je me vois pas arriver en disant c'est la fête, il faut aller au Japon, enfin nous le Japon on l'aime, on a une image qui est pas forcément d'ailleurs vraie du pays comme beaucoup de gens, mais il était important pour nous de marquer le coup par rapport à ce qui leur arrive, notamment en mettant effectivement plusieurs zones pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Il y aura un stand de la Croix-Rouge par exemple qui sera dans la seconde partie du salon, puisqu'en fait cette année on a un salon qui s'appelle Voyager aux gens qui aurait dû se passer comme ça avec des agences de voyage. Effectivement vu ce qui s'est passé on a voulu l'annuler ce salon, sauf que les autorités les principaux acteurs qui sont en rapport avec le Japon, et donc par exemple le bureau de représentation de la ville d'Osaka, le bureau de représentation de la ville de Kyoto, nous ont dit non, faut pas l'annuler, parce que justement il faut qu'on montre aux gens qu'il faut bien qu'on leur explique. Évidemment ils vont pas venir en disant bonjour, il faut venir demain, donnez-nous des sous, faites marcher l'économie. Non, ils vont pas faire ça, ils vont expliquer ce qui s'est passé, l'état actuel des choses, ce qu'ils prévoient de faire et pourquoi il faut pas abandonner le pays, l'oublier en disant c'est dangereux et tout. Donc ils sont pas là pour mentir non plus, ils sont juste là pour expliquer la situation telle qu'elle est quoi. D'ailleurs, j'en profite peut-être sur une radio comme la vôtre pour dire que chaque fois, tous les gens qui s'étaient engagés à participer à ce salon voyager au Japon, hein, j'entends, hein, c'est-à-dire la seconde partie du TGS Wanami, ont donc maintenu la participation. C'est eux qui ont dit non, il ne faut pas l'annuler, il faut continuer. Sauf deux Toulousains. Voilà, donc alors voilà, je suis
sûr. C'est pas la peine de régler les comptes et tout, mais ça explique bien la différence d'état d'esprit qu'il y a. Voilà.
Moi j'ai pas de tabou, donc je peux les régler si tu veux. Je les réglerai d'ailleurs sur scène le jour J parce que j'ai pas peur. Je veux dire là-dessus, il faut arrêter de déconner. Pour pas les citer, il s'agit de Havas Voyage et de Air France qui devaient participer au salon et qui ne viennent pas au final. Donc on leur a dit que c'était dégueulasse, tout simplement, parce que... Alors, eux nous rétorquent qu'en fait, on fait ça juste pour... qu'on leur en veut parce qu'ils ne nous donnent pas l'argent des stands. Alors, il faut savoir que l'argent des stands, c'est vraiment... ce qu'ils payent, c'est minime, d'accord. Mais surtout, il faut savoir que ce qu'on leur a dit, ok, vous venez pas, mais de toute façon, nous, les stands maintenant sont commandés, ils seront sur place, donc on va expliquer aux gens pourquoi vous n'êtes pas là. Mais surtout, puisque vous venez pas et que vous payez pas, puisque voilà, c'est vraiment par déontologie que vous venez pas, au moins l'argent que vous deviez nous donner, vous en faites don à la Croix-Rouge pour le...
Ce qui est tout à fait logique.
Voilà, ce qui est tout à fait logique. Bien sûr, ça ne se fera pas, hein, on est d'accord.
Et puis c'est pas comme si Air France n'avait pas déjà des problèmes de communication. Voilà, donc, déjà justement suite à cette catastrophe.
Voilà, avec les billets à 2000 et quelques euros, des choses comme ça, voilà, c'était sympa.
C'est intéressant, ouais.
Voilà, donc voilà, c'est dit, hein, voilà.
D'accord. On va encore avoir des emmerdes après quand ça a remonté dans les sites... Quand je vais envoyer arrêt sur image et tout ça, on va encore avoir des emmerdes et tout. Finalement, vis-à-vis justement de ces partenaires qui en veulent et qui veulent continuer, est-ce que ça donne pas envie d'en faire plus ?
Alors, mais ça donne envie d'en faire plus. Nous, de toute façon, on met en place certaines choses qui n'étaient pas prévues, notamment un concert de soutien qui se fera donc le vendredi 8 à 20h, vraiment sous la coupole de la Croix-Rouge. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on leur met à disposition le lieu du TGS, mais il n'y a pas marqué TGS ou quoi que ce soit sur la communication de ce concert. Hein. C'est pas nous qui prenons des sous à l'entrée. C'est la Croix-Rouge qui sera là pour prendre une somme de 10 euros par personne, mais c'est encore une fois, ce n'est pas nous, hein, c'est la Croix-Rouge qui sera là.
Ouais,
tous les prestataires qui travaillent sur TGS, que ça soit la sécurité, que ça soit la technique, que ça soit la location de salle, les gens qui nettoient la salle, le chargé de sécurité, tous ces gens-là nous ont dit, on est là, on vous l'offre ce temps-là, c'est gratuit. Ils donnent un coup de main comme ils peuvent, c'est-à-dire que leur métier, c'est leur métier, ils nous donnent, voilà, ils nous donnent une partie de leur métier pour soutenir l'action.
Bah, on ne peut que les saluer.
Bah oui, mais
c'est
ils
un
seront.
Peu idiot de le dire.
Ils le seront.
Alors justement, il y a aussi la participation volontaire, je veux dire, du public. Outre ce spectacle, il y a déjà un livre d'or qui est sur votre site web, t'as mis en place, Rafi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu, justement, de ce côté-là? Est-ce que vous allez faire, je ne sais pas, peut-être vous rapprocher de l'initiative qui a été lancée par Jean-David Morvan, le tsunami de café salé?
Alors en fait,
plus bon, près déjà... du micro s'il te plaît.
Excuse-moi. Donc non, alors on a mis en place le livre d'or. arrête de me, je vais pas avaler le micro non plus.
Si si. Oh.
Donc oui, comme je disais, on a installé le livre d'or assez rapidement. Par rapport à ça, ça a été fait, je sais pas en combien de temps, 2 jours après, même pas, on l'avait mis en place. On a eu pas mal de messages. Sébastien a pris l'initiative de faire une impression pour le donner aux officiels japonais sur place justement. Ensuite d'autres événements par rapport à ça, nous on a pris part, on a justement un label qui s'appelle Toulouse for Japan, c'est bien ça Seb?
C'est ça.
Voilà, qui va permettre de regrouper tous les événements toulousains qui ont un rapport par rapport à ce qui s'est passé au Japon justement. Donc nous on est là-dedans, il y a la mairie de Toulouse je crois qui a supporté ce label-là également. Donc voilà, il y a pas mal d'événements qui sont en train de se faire actuellement. Notamment il y a une exposition photo je crois à la mairie de Toulouse actuellement aujourd'hui. Il y a un autre rassemblement qui sont faits par d'autres associations dont on ne sera pas forcément là parce qu'on a d'autres trucs à faire en ce moment, mais voilà, le cœur y est en tout cas.
En tout cas pour les auditeurs, s'ils veulent avoir plus d'infos sur ce qui se passe, il suffit d'aller sur Facebook, de taper Toulouse for Japan. Il y a une page en fait qui est dédiée, qui rassemble justement l'intégralité des événements qui sont liés au Japon.
On mettra le lien en plus vite donc sur le site de l'émission. Est-ce que ça vous a rapproché d'autres manifestations qui sont en rapport soit avec le Japon, soit avec l'Asie qui existent sur Toulouse, comme le festival Made in Asia ou la semaine du Japon à Toulouse
Non, c'est vrai que là, on a eu aucun contact, nous. Voilà, mais après, je pense que c'est. Enfin, il ne faut pas juger les gens ou il ne faut pas dire, ouais, ils ne se sont pas unis par rapport à ça. Chacun a fait des choses qui étaient bien. Voilà, point. On n'a eu aucun contact spécifique, ni avec Made in Asia, ni avec d'autres.
Hein. D'accord. On va peut-être aller sur un truc un petit peu plus gay. Vous avez quand même un line-up. Quand même, vous avez des invités qui sont extrêmement intéressants. Il y a Cécile Corben qui a fait donc la bande-son du dernier Studio Ghibli. Justement, quels sont en fait les autres invités que vous avez?
Alors oui, effectivement, si on parle de concert...
Je préfère vous les laisser présenter quand même, hein. Ça va bien le faire.
Il n'y a pas de souci.
Cécile Corbel avec en formation trio qui sera là donc, pour faire tout le concert de la bande originale d'Arietti, effectivement, ça sera le samedi soir. Le dimanche soir, on a la chance d'accueillir Nana Kitadé avec le groupe Loveless. Nana Kitadé, donc chanteuse d'un des endings de Full Metal Alchemist. Après, il faut savoir qu'elle ne fait que 3 dates en France par rapport à sa tournée européenne. Ah oui. Une à Paris, une à Marseille, une à Toulouse. Donc on est assez content de la voir. Ensuite, donc, on a d'autres invités, on va dire plus traditionnels, des gens avec qui on a l'habitude de travailler, qui reviennent avec plaisir et pour notre plus grand plaisir.
Hein, comme votre mascotte, Bernard Minet, votre parrain.
Alors là, pas sur le TGS One Ami. Ah. Le TGS One Ami, c'est un peu, voilà, c'est un peu, on le met un petit peu à part, puisqu'en fait, on.
De qui ça?
On a de bonnes relations avec lui.
Non, mais il est adorable en plus. Hein,
d'ailleurs, il nous a encore envoyé un message en disant que voilà qu'il espérait que ça se passe bien. On a vu des événements, voilà. Mais c'est vrai que sur le TG sur la mienne, on essaie de se recentrer sur des choses un peu plus, on va dire culturelles. Mais c'est faux. Enfin, voilà, c'est faux. Il y a des choses que vous ne verrez pas sur le TGS classique, hein, que vous verrez sur le TGS Onami, notamment la présence d'un maître céramiste par exemple qui sera là pour faire vraiment de la vraie céramique japonaise. Il y aura une vraie cérémonie du thé faite par quelqu'un qui maîtrise.
C'est-à-dire on est en dehors des clichés, là on est vraiment dans le traditionnel et la culture pure et dure.
Alors je ne dis pas que ça va être le salon tout comme ça. Alors effectivement, oui il y aura du manga, oui il y aura du goodies, oui il y aura du DVD, oui il y aura du cosplay, mais il n'y aura pas que
cosplay, fille.
Voilà.
Fille.
Non, non, mais il y aura des invités après qui sont proches de l'univers TGS, comme Marcus, par exemple, comme Josodio, qui est le présentateur du G-Top sur No Life.
Et accessoirement, c'est l'un des cofondateurs d'un site de musique de merde. Hein.
Comment ça?
C'est quoi?
Oui.
Ah, vous le savez pas?
Non.
Vous le savez pas? Quand vous cherchez une musique vraiment pourra, vraiment française, vous allez sur quel site?
C'était quoi?
Bidet Musique? C'est ça? Ah d'accord. Non mais je savais pas que c'était un cofondateur. Mais non mais c'était pas mal ça. C'est... Non parce que comme tu le dis, t'as l'impression que c'est le site qui est de merde en fait. Non en fait c'est le site de musique de merde.
Oui oui.
Mais c'est musique de merde en un seul mot quoi en fait.
Sympathique.
Voilà. On est d'accord. Non mais il était très content en plus qu'on ait pensé à lui et ça lui fait plaisir parce qu'il a fait une partie de ses études à Toulouse en plus.
Ouais.
Donc voilà quoi. Et puis après des petits.
L'année dernière il y avait Club de Kyudo qui était invité. Est-ce que vous renouveler l'expérience avec d'autres arts martiaux par exemple?
Alors il y a
c'est vrai qu'on a été très surpris de l'accueil qu'avait eu le public justement de ce genre de sport qui est plus un sport de
bah c'est très visuel aussi quand il tire la flèche et que tu vois qu'il prend 3 heures avant de tirer la flèche et il y a tout le monde qui est là
c'est la concentration et tout ça, c'est pas vraiment la démonstration physique
hein. Voilà non mais c'est clair mais pourtant il faut oui c'est impressionnant parce que le gars est très quand il vous parle il était très très lent, très posé. Et tout d'un coup, on le voit décocher, hop, une flèche concentrée, il tire, pouf, ça atteint la cible, c'est voilà. Alors quand on se dit qu'il fait ça après à cheval, c'est un truc de malade quoi. Enfin là, il n'y avait pas les chevaux hein, sur TGS. On aurait pu, mais on a dit que bon, pour des raisons, non, il n'y avait pas les chevaux. Non, il n'y aura pas de Kyudo ce coup-ci, mais il y aura d'autres nouveautés, d'autres arts martiaux qui seront présentés. Alors moi, alors c'est pas pour décrier le judo ou des choses comme ça. Moi, j'en veux pas sur le salon. Je veux pas des choses trop simples. Quand je dis trop simples, ce sont des arts qui sont compliqués. Hein,
que tout le monde connaît.
Mais que tout le monde connaît, voilà. Parce que je pense qu'il y a d'autres manifestations qui sont là pour ça. Il y a la nuit du Shaolin, par exemple, qui est très bien pour ça. Nous, on est là pour essayer de montrer quelques petites choses en plus.
Voilà. Vraiment à part, c'est vraiment de la découverte pour amener le public à ça, pas ce qu'ils attendent forcément.
Exactement. Puis la nuit des Shaolin, c'est chinois aussi.
Oui, non mais...
Non, mais celle-là.
Je suis d'accord, mais tu vas voir qu'il y aura pas que il y aura des arts martiaux japonais aussi. Mmh. On est d'accord. C'est effectivement, on peut partir sur le principe que c'est asiatique. Mmh. Comme ça, on peut dire, on peut tous cibler, mais quand on cherche bien, on s'aperçoit qu'il y a des maîtres au Japon, des maîtres en Chine, voilà, qui maîtrisent aussi bien.
D'accord. Je sais pas comment du coup je vais partir parce qu'on a parlé de.
T'as flingué ton plan, c'est ça?
Ouais, un petit peu puisque en fait je voulais revenir à une histoire qui est un
coucou
petit
circus.
Peu. Bah ouais.
Voilà.
Ouais, puisqu'on en parlait un petit peu hors antenne. Coucou Circus, donc est une association hein, qui s'est montée autour d'un site.
C'est même pas une asso.
C'est en son nom personnel.
C'est pas une association, c'est quelqu'un qui.
Faut peut-être aller dans l'ordre. C'est un site qui en fait regroupe des génériques de dessins animés et de séries, et qui existe depuis pratiquement 10 ans, je crois, qui vient de se faire flinguer par la SACEM parce que ce qu'il faisait, c'était pas légal, c'est-à-dire mettre gratuitement à disposition de la musique sur laquelle il y a des droits. Sans ni avoir prévenu la SACEM ni avoir payé les droits afférents, et du coup la SACEM lui est tombée dessus.
Alors ouais, mais je suis pas sûr que je pense que la SACEM est un peu trop procédurière. Clairement Xavier, qui est donc le patron du site, a fait en sorte que les musiques ne soient pas téléchargeables, soit dans une qualité qui soit pas exceptionnelle. Donc c'est pas du MP3 que vous allez pouvoir écouter en super qualité.
C'est même difficilement diffusable en radio.
Voilà, donc c'est clairement. Y a un travail de malade qui a été fait pour justement sur chaque fiche retrouver le nom de l'interprète, le nom du compositeur. Enfin, vraiment, je pense que c'est plutôt une mise en avant plutôt que du vol de propriété intellectuelle quoi, dans l'histoire. Hein. Quand on vous dit que l'assassin arrive à dire vous payez pas les droits. Mais qui irait payer des droits pour écouter une chanson comme ça? Je veux dire, clairement, je pense que Coucou Circus, il aide justement à ce que ça ne tombe pas dans les oubliettes, quoi, en fait. Clairement, on est toujours content de pouvoir cliquer, de dire, ah tiens, ça, c'est vrai, ça existait. Et, Coucou Circus, c'est pas un site où vous allez écouter le dernier album de Usher ou Justin Bieber ou vous allez pouvoir le télécharger. C'est pas Deezer, quoi. Hein. Donc que l'assassin m'arrive en, dire, en demandant des choses mais improbables, du style. Je crois que c'est plus de, c'est un truc de, aux alentours de 10 000 euros par mois. Hein, la
plus, oui, oui, c'est une... 2 centimes d'euros par écoute. Donc, effectivement, on arrive très vite.
Ça monte très vite. Hein, ça monte,
très vite, extrêmement hein. Vite, ouais.
Donc, non, mais c'est vrai que nous, on le soutient. Xavier, il est venu, il nous fait la joie de venir à chaque fois sur le salon. Ils seront là, d'ailleurs, au TGS. Au TGS
donc, ils viennent finalement.
Ils viennent, ils seront bien présents. Après, l'avenir du site, on ne le connaît pas. Ils ont lancé une pétition sur leur site que je vous invite à aller signer. Ils ont déjà plus de 15 000 signatures. C'est un passionné à qui on va enlever son outil de travail. Enfin, il se paye pas avec Coucou Circus. Hein. C'est son outil de.
Non mais effectivement, si en plus il n'y a même pas d'association derrière, il est vraiment responsable sur ses biens propres.
Ah oui, il ne se cache pas en plus, je veux dire, sur le site il y a toutes ses coordonnées, il y a même son CV dessus. Enfin, c'est pas quelqu'un qui se cache pour faire ce qu'il fait, hein. Ça fait 10 ans qu'il le fait, seulement maintenant l'assassin s'aperçoit que effectivement il y a du monde qui passe et qu'ils peuvent récupérer des sous. Voilà, tout comme nous, moi je peux vous le dire par rapport au TGS, entre 2009 et 2010, notre cotisation SACEM a doublé. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça a doublé. C'est magique.
Enfin, les calculs... Non, mais je ne vais pas venir dessus.
Non, mais après, c'est des gens qui sont là pour faire leur travail. Maintenant,
c'est un peu ça, parce que finalement, on ne peut rien reprocher à la SACEM de ce côté-là, puisque lui-même était dans l'illégalité, il était dans une zone même pas grise, c'était carrément illégal, et il y a eu plusieurs lois qui sont passées derrière. Et c'est vrai que ça touche, parce que c'est entre guillemets, c'est une mise en avant d'un certain patrimoine.
Faire arrêter un mec comme Xavier de Coucou Circus, c'est comme si tu allais arrêter un gars qui fait de la contrefaçon de cassettes vidéo VHS à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux. Mais il faut arrêter, quoi. La qualité n'est pas exceptionnelle. Je veux dire, tu vois les flics arriver, monsieur, vous faites du trafic de VHS. C'est un truc de malade, quoi.
Vous avez souhaité.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un truc de folie, quoi. Moi je le soutiens, et de toute façon, tant que je lui ai dit, tant qu'il voudra venir, il sera toujours le bienvenu au salon, quoi qu'il nous en coûte, quoi. Je veux dire, c'est voilà.
Raphaël et Sébastien, donc de l'organisation du Toulouse Game Show pour TGS One Ami. On aurait encore d'autres questions de ce côté-là. Je propose un petit break, ne serait-ce que pour manger les chouquettes. Ce serait sympa, non? attends, parce que là, je suis en train de.
Ah, bravo.
Forcément, bah oui.
Ah oui, c'est du direct.
Oh.
Pizzicato 5 remixé par Monus, trailer music extrait de l'album Happy Hand of You. Mais bon, on va continuer. On parle pas la bouche pleine en général, mais bon, tant pis. On parlait justement donc de vis-à-vis de la SACEM et tout ça. On a aussi un cas d'incertitude juridique qui faisait déjà débat avant qu'on lance l'émission, c'est celui des AMV, c'est-à-dire des gens qui prennent soit un film, soit un dessin animé, soit une série, et qui remontent derrière à partir d'une musique pour en faire un clip. Vous en diffusez. Est-ce que cette année sera toujours le cas?
Alors,
de ce côté-là, ou vous reposez la question du coup?
Alors, c'est toujours pareil. Oui, c'est illégal. Alors, parce que voilà, parce que c'est des œuvres donc qui sont mélangées, mais d'accord. Et oui, il y en aura quand même, parce que effectivement, alors on peut venir nous dire que c'est qu'on fait c'est une manifestation payante, le TGS, et donc on fait de l'argent sur des œuvres. Mais comme je te le disais hors antenne, je te mets au défi de me trouver une personne sur nos visiteurs qui dise « Moi, je viens, je paye pour venir voir les AMV. » Je pense que l'AMV, c'est une chose, ça fait partie d'un tout. Et les gens sont contents d'en voir, parce que c'est des gens qui... ceux qui font les AMV, c'est des passionnés, c'est des techniciens après, qui, enfin vraiment, ils arrivent à... C'est des artistes techniciens,
les vrais monteurs, hein. Vrai travail donc, de montage.
Voilà, donc enfin, moi je trouve que c'est intéressant de voir leur travail. Après, voilà... C'est pas vendu, c'est pas but commercial l'AMV, je veux dire, c'est vraiment un truc, c'est faire partager sa passion et montrer... C'est là pour faire plaisir aux gens. Oui, il y en aura.
Voilà. Alors, est-ce que c'est comme Arthur dire c'est un hommage ou comme les Daft Punk dire c'est un hommage?
C'est bien dommage. C'est juste.
On peut pas accuser les producteurs d'AMV de faire de piller. Enfin, c'est pas du pillage.
Non, mais non.
C'est,
mais
tu vois clairement que c'est un hommage.
Moi, je peux. Mais même, pour dire, on peut pousser la connerie jusqu'au bout. Le mec qui passe devant un AMV, il va revoir. Je sais pas, par exemple, je dis une connerie, mais Cowboy Bebop, il va voir des images de Cowboy Bebop monter. Il va dire, tiens, c'est vrai, tiens, Cowboy Bebop, c'était sympa. Et ça va même peut-être lui donner envie de dire, tiens, je vais peut-être me le remater. Ça peut, au contraire. Pour moi, l'AMV, c'est de la pub gratos. Alors, vouloir faire taxer des gars pour faire de la pub gratos, au moins, il faut arrêter, quoi. C'est toujours pareil, mais c'est comme la SACEM tout à l'heure, on est d'accord. Le problème est que...
C'est la même boîte,
être d'accord, voilà. Non, mais le truc, c'est que il faut juste rendre ça plus humain, c'est tout. Il faut arrêter de vouloir s'arrêter à des lignes de code civil, de code pénal. Il faut rendre ça plus humain.
Enfin, je sais pas si t'as vu la news qui était absolument délirante, c'était à propos de LimeWire, qui était un site de piratage pur et dur. Puisque là c'est l'échange de fichiers, derrière il y avait la publicité et tout, et l'équivalent de la SACEM aux États-Unis, l'IRMI, je sais plus comment ça s'appelle, vient de se voir débouter devant le juge parce qu'ils ont demandé 16 000 milliards de dollars. Et là le juge a dit non, mais c'est pas recevable,
c'est, oui, non, il
voilà.
faut arrêter
de déconner là-dessus. D'un autre côté, TGS cartonne depuis le tout début.
Oui.
Moi, je me souviens déjà de la première édition quand on y était allé. Nom de Dieu.
En plus, c'était la moitié de la surface actuelle.
Oui, hein. Ouais. Mais ça...
Non, même pas un quart. Quasiment.
Ah oui, parce qu'on avait qu'un bâtiment. Ouais.
Oui, oui. Et...
Moi, je regrette fortement que vous ayez plus la partie en taille.
Ah oui, mais alors c'est pas qu'on veut pas l'avoir, hein, c'est qu'on trouve personne qui puisse nous faire quelque chose de bien, quoi. C'est ça, quoi.
Ah, ouais.
C'est surtout ça.
C'était ça.
Ah oui, parce que nous, alors je fais un appel, hein, s'il y a des professionnels qui vendent des produits en taille.
Tu veux foutre la merde chez moi parce que ma copine va me regarder bizarre, non, si je vais chercher dans la bibliothèque. d'un autre côté, ça commence. Là maintenant, vous avez pratiquement tout Diagora dans le Toulouse Game Show. L'édition normale, pour TGS One Ami, ça reste encore la moitié. Est-ce que, pour novembre prochain, vous n'allez pas complètement saturer l'espace Diagora? Comment vous allez faire?
Alors, comment on va faire? C'est simple, la solution a été trouvée. Nous faisons monter un chapitre de 1200 m² qui va être collé à Agora.
Alors méfie-toi avec les histoires de chapiteaux dans les festivals. Je peux te donner l'exemple d'une petite ville moyenne dans les Charentes où ça tourne le bordel chaque année.
Alors je t'explique, le chapiteau...
Sur le financement.
le financement, alors ça coûte 40 000 euros, hein, le chapiteau, voilà. Oui, non, parce que c'est pas, quand je dis un chapiteau, c'est pas un chapiteau de cirque. Hein. C'est-à-dire que quand les gens seront à l'intérieur de cet espace,
c'est
parqué, chauffé, il y a les issues de secours qui sont reportées, enfin je veux dire, c'est dedans mais dehors, hein, on est d'accord, c'est pas un chapiteau de voilà de fête de foire ou de voilà le fait qu'on mette un chapiteau ne veut pas dire qu'il y aura plus d'exposants car on a bien vu de toute façon quand on a monté le salon on s'est imaginé dedans quoi donc là j'ai bien vu même moi me promenant l'année dernière que c'était un peu serré c'est le moins qu'on puisse dire du coup on a pris la décision de d'agrandir les allées de passage
c'est-à-dire plus penser au confort finalement
plus penser au confort qu'à la vente supplémentaire alors on le fait uniquement parce que Diagora a pris en charge la moitié du chapiteau, hein. Et c'est eux qui prennent en charge la moitié du chapiteau.
Ah ouais.
Voilà, et qu'on est en train
Donc c'est vraiment un très bon partenaire que, de ce côté-là.
Ah oui, oui, non, mais depuis le début, de toute façon, hein, sans eux, on n'y serait pas, hein, de toute façon, il faut le savoir, hein, on a été en perte pendant les trois premières années. C'est eux qui ont pris, on a réussi à régler tous nos prestataires, à payer tous nos prestataires à chaque fois rubis sur l'ongle. Et c'est Diagora à chaque fois qui a fait tampon en fait. Hein. Donc maintenant c'est fini puisque maintenant vu la dernière édition ça s'est bien passé. Mais c'est pas pour ça qu'on va les abandonner et qu'ils vont nous abandonner aussi. Quoi. Au contraire on essaye de travailler main dans la main, de voir ce qu'on peut faire. Le jour où on pourra plus, on pourra plus. Mais là je pense que c'est une bonne solution le chapiteau. Passer les allées de 3 mètres à 4 mètres, ça va vraiment désengorger le salon. Et on verra par la suite après. Hein.
De toute façon, c'était soit agrandir les allées, soit supprimer les gens qui sont déguisés en Pac-Man, parce qu'ils prennent la place aussi.
Ouais, ouais. Mais moi, j'aime bien Pac-Man.
Et alors, comment vous êtes vu par les organisateurs, justement, de l'espace Diagora, qui ont l'habitude d'accueillir les salons d'entreprise, ou des trucs comme ça, des gars en costard
et oui, c'est plus institutionnel. Hein,
nous, on est des fêlés pour eux. D'ailleurs, mais c'est ça. Tu sais qu'il y a eu un salon de l'érotisme il y a quelques années, là, à Diagora. Et ils ont fait moins que nous. Alors, à l'époque, je pense qu'on faisait. On devait faire 13 ou 14 000 visiteurs. Et eux ont fait 7 000 ou 6 ou 7 000 visiteurs. Et je me souviens très bien.
Pourtant, ils ont racolé. Hein.
Ouais, mais c'est pas
oui, non, mais oui.
Plus,
hein.
Et il y avait des affiches partout.
Mais la commerciale de Diagora m'a dit la preuve est comme quoi il y a plus de fêlés que de pervers quand même. Hein.
C'est rassurant.
Non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. Rien que le coup du chapiteau, par exemple, en 20 ans que Diagora existe, ça va être la troisième fois qu'il est monté. Donc on est content que ce soit pour nous, hein. Mais après c'est vrai que je me souviens Diagora a organisé une soirée avec les organisateurs de tous les événements qui se passent, les petites réunions, tout ça. Et le discours du président de Diagora a été de dire on vous accueille donc à longueur d'année pour des événements de quelques dizaines à quelques centaines à quelques milliers, voire beaucoup plus pour certains, voilà. On s'est pas senti visé du tout, hein, sachant que Diagora, c'est clair. Nous, ils hallucinent chaque année, quoi. Donc,
en tout cas, pour avoir discuté avec certains restaurateurs à proximité, ils ont dit, c'est vrai que ça nous a fait drôle la première année, mais maintenant, on est enchanté quand on les voit débarquer.
Ah oui,
ils sont aux anges. Ils adorent.
Moi, j'étais encore à la Malterie il y a quelques jours.
Attends, pas de marque.
Mais comment tu as su que je parlais d'eux?
Parce que c'est très bon. Alors, écoute,
il faut en citer deux autres.
Alors, le Tommy's et
Flamme.
Non, arrête, déconne pas, c'est pas. C'est le même patron, Flamme, en fait.
La pataterie.
La pataterie,
Bon, d'accord, ok. Sinon, on va vraiment avoir des emmerdes. Dans ce cas-là, s'il faut pas citer que le Tommy's.
Il allait dire un truc sur la pataterie, attends, vas-y.
Oui.
Voilà.
Non mais j'ai été et donc du coup il me dit c'est vrai que tu reviens dans quelques jours et j'ai dit ben oui parce qu'il me dit mon fils il me fait chier pour avoir des places et tout donc voilà je soudoie le gars de la Malterie avec des places il faut le savoir hein,
D'accord. D'un autre côté puisque il faut citer deux autres marques Tous Game Show, il y a plein de manifestations qui profitent de la excusez-moi mon jeu de mots, je devais pas être réveillé ce matin. Vague manga ces dernières années.
Il y a notamment qui l'ont fait avant toi.
Ouais, en cette saison. D'un autre côté, il y a. Ben, je crois que le même week-end, il y a quelque chose à Montpellier, il me semble.
C'est le week-end d'après.
C'est le week-end d'après, d'accord.
C'est à Montpellier ?
Non, c'est à Toulon.
C'est à Toulon, pardon.
C'est le Mangazur, oui, à Toulon.
Je crois qu'il y a quelque chose le même week-end, il me semble.
Il y a à Paris, il y a le
Manga Party Festival.
D'accord.
Mais bon, enfin, à Paris, à Toulouse, enfin, maintenant, après, les gens font ce qu'ils veulent, mais si les gens de Toulouse se disent on va pas au TGS ou à l'AMI, on va à Paris.
Mais qu'est-ce qui fait justement votre différence, excepté justement la proximité?
Mais le Manga Party Festival, à la base, c'était plusieurs concerts. Et c'est la première fois qu'ils essaient de monter un salon en fait autour. Nous, le TGS Wanami, c'est un salon sur lequel on agrémente avec des concerts, quoi. Donc pour nous, c'est pas du tout la même chose. Nous, on est un salon avec beaucoup d'animations sur scène. On a une scène non-stop pendant 2 jours. On a des animations, on a créé 2 espaces d'animation supplémentaires en plus de la scène, et on a en plus donc agrémenté de deux concerts. On a essayé de monter en grade par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière, quoi, en fait, sachant que c'était déjà très bien pour nous, ce qu'on a fait l'année dernière.
Ça fait 4 ans donc que vous avez monté, qu'on a eu la première édition de TGS.
C'était 2007,
Quand vous avez commencé à réfléchir à ce que vous vouliez faire, ce que c'est devenu aujourd'hui, est-ce que ça correspond à l'idée que vous aviez en tête ou non?
Alors oui, oui et non. Ça a grandi un peu plus vite que ce qu'on pensait, mais on reste dans l'optique où on veut avoir quand même. On veut pas que ça. Notre but, c'est pas de faire 5000 visiteurs. Voilà. C'est de rester dans un endroit confiné, quand même, de manière à ce qu'on puisse avoir la même mise sur tout. La vision qu'on a du salon soit pas déformée par des gens à qui on aurait délégué des choses, quoi. On l'a eu fait, on a fait des erreurs. On en fait encore, rassurez-vous, et il y en aura d'autres. Je vous rassure. Le jour où il y en aura plus, là, on se posera des questions, quand même. Mais voilà, on essaye d'avoir la vision la plus. Enfin, ce que vous avez au TGS, c'est notre vision à nous. Alors, des fois, on se trompe, voilà. Mais ça reste proche de ce qu'on veut, ce qu'on souhaitait.
Et parce que, bon, on a eu. Il y a énormément de salons autour de justement cette culture, entre guillemets, manga, jeux vidéo et tout le reste qui existe. Est-ce que. Vous ne craignez pas d'être noyé, le côté archi-commercial de certains opportunistes emporte tout?
Alors moi je veux te dire, moi je suis un passionné, c'est-à-dire que je peux te prendre quand tu veux à Dance Dance Revolution, j'ai
t'as
Kinect
vu la
chez
vidéo.
Moi, enfin je veux dire, non, clairement, moi je ne me positionne pas par rapport aux autres, je fais le salon parce que j'ai envie de le faire moi et j'ai envie de faire plaisir aux gens. Maintenant, il y a d'autres sociétés, dont une très grosse qui s'implante à Marseille, qui part en Belgique maintenant aussi, qui est une société plus commerciale. Mais voilà, enfin, nous on a un aspect commercial, bien évidemment, parce qu'il faut bien qu'on vende des stands pour. Il faut rappeler qu'on n'est pas subventionné, on touche 0€ de subvention de n'importe qui. La seule subvention qu'on va avoir, c'est au TGS au mois de novembre, c'est par rapport au chapiteau, en fait. Mais on n'a jamais touché un seul centime de subvention de qui que ce soit. Donc effectivement, on est obligé d'avoir une partie commerciale, mais par rapport à d'autres, chacun fait ce qu'il fait dans son coin, il le fait très bien. La preuve, nous on a été partenaire de l'édition de l'année dernière de Japanime, on y a été en tant que TGS, hein. On avait un stand TGS 12 Game Show au Japanime, enfin le truc, on leur a fait de l'animation et tout, mais chacun fait son truc. C'est sûr que quand il y aura Japan Expo Toulouse, ça va nous faire chier, hein. Ça c'est un truc, mais je suis pas sûr que ça soit leur objectif de venir sur Toulouse, quoi. Ils ont quelque chose à Marseille, ils le font, pour le moment ça va très bien.
Est-ce que vous allez dans des manifestations, on va dire, un peu plus institutionnelles, entre guillemets culturelles, comme Angoulême par exemple, Est-ce que vous avez pu voir un peu les différences? Est-ce que justement l'approche de la culture japonaise plus culturelle, c'est-à-dire avec plus artistique et tout, est-ce que ça vous tente pour essayer de faire quelque chose dans votre salon à vous?
Ça nous tente sur le fait d'agrémenter, on veut pas prendre la place d'Angoulême, on n'a pas cette ambition-là, je veux dire, mais d'agrémenter, d'avoir quelques petites choses pour donner aux gens envie de découvrir le reste en allant à Angoulême, mais faire ce qu'ils font, non, ils le font très bien, quoi. En fait,
tu sais, tu peux lui faire une croix comme ça en disant esprit de Julien Bastide, sors de ce cœur.
Moi j'ai eu l'ancien directeur de Diagora était à Angoulême pendant la dernière édition. Il m'a appelé, il m'a dit ah tu sais là-bas ils font des trucs sympas, il y a ça, il m'a fait des photos, des choses. Mais pourquoi pas les contacter dans quelques années, voir si on peut pas faire du partenariat, des choses comme ça. Mais faire ce qu'ils font, non, parce qu'ils le font très bien. Et que nous on serait mal pour arriver à faire ce qu'ils font, c'est pas possible, quoi. C'est des années et des années de travail derrière, quoi. On essaye juste de rassembler des choses et de donner envie aux gens s'ils veulent en savoir plus, et bien c'est à eux de faire l'effort après d'aller vers des manifestations qui sont plus dédiées à ça, quoi, en fait, hein.
On va peut-être poser la dernière question et prendre la suite du programme.
Aussi,
vas-y, vas-y alors.
Moi, c'était pour savoir la consécration ultime de votre festival serait peut-être d'accueillir un mangaka.
Oui. Oui. Alors, on travaille avec une société qui s'appelle Shibuya International, qui est en fait la société qui a implanté Japan Expo à Marseille, et qui maintenant travaille avec le TGS. Et c'est grâce à elle, notamment, qu'on a fait venir l'année dernière Shinji Hashimoto de Square Enix. Donc, on a pris le parti cette année encore pour le prochain TGS de retaper dans le jeu vidéo. Mais on s'interdit pas de faire autre chose dans les années suivantes, quoi, en fait. On veut plutôt cultiver la différence en faisant ça que dire on va faire comme Japan Expo par exemple, ou en invitant des mangaka. Je veux dire, si effectivement, si vous voulez voir du mangaka, c'est pas chez nous qu'il faut venir, quoi, en fait.
Et encore les voir entre guillemets, parce que bon, c'est drastique là-bas, sélection.
Oui, ben voilà, après, c'est sûr que. Ben nous aussi, hein, je veux dire, quand on fait venir Hashimoto par exemple, il reste pas 8 heures sur un stand à dédicacer. Par contre, on essaie de trouver des arrangements pour que le plus de personnes puissent le voir au travers de conférences, des choses comme ça. Et quand il fait de la dédicace, par contre, et ça c'est quand même tout à son honneur, quand il est l'année dernière, normalement il devait faire une heure de dédicace. Je crois que c'était plus 2 heures qu'une heure. Hein. Il est arrivé, il y avait du monde, il a fait. Tout le monde est parti avec sa dédicace. Hein. Tous les gens qui voulaient de la dédicace, tout le monde est parti avec. Hein. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est parti en disant ouais, j'ai pas eu, j'ai attendu, j'ai pas eu. Non, ça n'existe pas, quoi. Donc, oui. Mais on a des noms qu'on peut faire venir. On a des listes qui sont très intéressantes. Mais très très intéressantes. Moi je pensais pas de mon
vivant. Le sourire communicatif qui
Enfin, moi je pensais pas un jour pouvoir toucher ces gens-là. Mais quand je dis des noms, c'est des noms qui parlent à tout le monde. Même quelqu'un qui connaît pas le manga, il y a des noms, quand on les nomme.
Non, pas eux.
Non. Si. Voilà, mais. Maintenant, on calcule aussi. On calcule la salle d'Agora, comment le TGS évolue. On essaie de voir si c'est pour faire venir un gars qui est super, qui est hyper méga connu mondialement et que tout le coup plus personne puisse rentrer dans le bâtiment, c'est pas la peine, quoi. Voilà.
Alors, dans ce cas-là, la semaine prochaine pour donc l'édition TGS Wanami, c'est samedi et dimanche.
Samedi et dimanche, ouais,
De 10h à 19h.
10h-19h.
Voilà. Alors,
18h le dimanche. Puisque le concert d'Anakitade est après, en fait.
L'image. D'accord. Les choses que vous recommanderiez sincèrement. Non, Rafi, là, il est en pleine séance shooting.
Oui, Rafi, je suis pas ton modèle.
Rabille-toi, s'il te plaît. Rabille-toi.
Bon, là, le truc que vous aimeriez vraiment faire découvrir à quelqu'un qui viendrait par hasard et qui rentrerait parce qu'il s'est dit, ça a l'air sympathique.
Moi, je pense qu'il faut vraiment se rapprocher des espaces d'animation. Notamment, on a mis en place 3 cours de cuisine qui vont être énormes avec des gadgets, un truc de malade pour faire des... vraiment pour faire des trucs, des chips au micro-ondes avec des appareils japonais. C'est un truc de folie. Ça y sera. Il y aura des trucs pour faire des sandwichs vraiment à la japonaise, des trucs, des bento, des trucs.
Voilà. Oui, ça, on avait eu un aperçu au dernier TGS avec des bento en forme des œufs, en forme de poisson.
Voilà, exactement. Mais là, par contre, c'est ce gars-là qui revient avec sa boutique.
Ah, c'est je sais plus comment ça s'appelle. C'est Tengo.
Je cherche une idée. Alors, il sera là, mais en plus, il nous a dit, moi, je veux en plus montrer aux gens ce que je sais faire. Donc, il a préparé un cours d'une heure pour ça. Et ensuite, on aura 2 cours avec une cuisinière que tout le monde connaît à Toulouse, et c'est au Kini qui va faire deux cours d'une heure.
Pour ceux qui ne sont pas de Toulouse, c'est un salon de thé qui est pas évident à trouver, mais quand on va au fond de l'immeuble, on descend en sous-sol, on est dans un autre pays.
Voilà.
Et je vous laisse deviner lequel.
Dans le personnel de ce salon de thé avait beaucoup plus un céramiste l'année dernière.
Par rapport à quoi?
C'était celui qui faisait les pots, il avait posé avec tout le staff féminin. Et il revient cette année, c'est ça?
Rizu Takahashi, il sera là. Hein. C'est lui qui va faire la démonstration de céramique, et c'est lui qui fera également la cérémonie du thé. Voilà. Donc,
D'accord. On va enchaîner avec les sorties bande dessinée. Je vais commencer par un truc. Alors, je dois avouer, c'est pas tous les jours. On reçoit pas tous les jours des trucs qui sont vraiment bien en bande dessinée. C'est un petit peu dommage.
Alors, d'habitude, c'est de la merde, mais aujourd'hui.
Alors, c'est de Kiosk Page Book. Ça s'appelle Malbook. Super, c'est auto-édité. Et c'est l'histoire de 3 enfants sur un bateau pirate qui débarquent sur une île grâce à une carte, mystérieuse carte promettant un trésor. Des aventures étranges et rocambolesques qui mèneront droit à leur but. Du moins, c'est ce que j'ai cru deviner en regardant l'histoire. Intérieur, j'avoue que j'ai été complètement désemparé. Tout commence par un charmeur de serpent. On est à un anniversaire, deux enfants voyagent sur un éléphant.
Mais c'est un poisson d'avril.
J'arriverai pas sans éclater de rire. Je pensais que c'est du sport qui le premier allait.
C'est une de coloriage. C'est une idée, il y a pas d'histoire.
Il y a des chouettes.
Ah non, mais les dessins ils sont en particulier.
Bah oui, mais moi je l'ai reçu avec un dossier de presse, donc je donne quelques réactions de célébrités. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu deux fois, Michael Vendetta, une littérature saine pour la jeunesse, Éric Zemmour, c'est palpitant, tout est possible de Jean-Marc Morandini. Personnellement, je pensais arriver à faire cette chronique sans me le faire spoiler et sans éclater de rire. Et je crois que c'est loupé, d'accord. Thomas, ton...
Attends, on va le montrer à du sport parce que peut-être qu'il va aimer le. Non mais Feuillette, c'est pas mal. Hein.
Mais c'est parce que c'est décalqué.
C'est une édition japonaise.
Non mais c'est décalqué. En plus, c'est une cata. C'est du pompage pur et dur de certains dessins. Thomas, s'il te plaît, tu vas peut-être commencer par Hitman.
Oui, alors moi je chronique vite fait deux tomes 2 de paru chez Ankama. Donc je commence par Hitman Part-Time Killer. Donc tome 2, c'est de Hiroshi Muto et c'est édité dans la collection Kuri chez Ankama. Alors j'avais été assez sympathique avec assez positif avec le premier tome. Donc c'est l'histoire d'un employé de bureau qui se retrouve tueur à mi-temps et en même temps il doit gérer ses contrats avec. Ah oui,
il y a du pare-choc. L'image que Rafi a remarqué, hein, donc on peut le voir.
Oui, une fille qui se fait toucher les seins.
S'il vous plaît, le macaron moins 12 maintenant.
Et alors moi j'avais été assez positif par rapport à ce manga parce que voilà, l'employé de bureau qui devient tueur à mi-temps, bon c'était rigolo, surtout que sa nouvelle coéquipière c'est l'ex du fameux tueur double flingue. Alors pour nos invités, il s'appelle double flingue pas parce qu'il a deux flingues mais parce qu'il en a dans le pantalon. Et donc il prend des lunettes de soleil pour remplacer le tueur qui lui a fait promettre de prendre sa succession et tout. Alors il se trouve qu'il se révèle assez infaillible malgré le fait qu'il soit rookie dans le milieu parce qu'il utilise dans le milieu des tueurs les recettes qui lui ont fait devenir un excellent commercial pour sa boîte. Sauf que là on atteint vraiment les limites de la série parce qu'avec ce tome 2 on s'aperçoit
c'est dommage parce qu'en fait le premier tome allait très vite, ouais, beaucoup trop vite.
Trop vite.
Trop vite alors qu'il y avait vraiment matière à exploiter et on sentait qu'il y avait des idées et sur le papier ça pouvait vraiment cartonner.
Et le bas blesse, c'est que on suit pas l'apprentissage. Tiens, là il a fait une erreur qui aurait pu lui coûter la vie parce que il se déplace pas comme un vrai tueur, ou là il a fait un mauvais choix parce qu'il a pas assez d'expérience. En fait non, tout lui tombe dans la main, il se réveille infaillible, il a un esprit super vif, donc il prend les bonnes solutions là où il faut. Franchement, il peut en faire au moins 30 comme ça, tu sens que ça y aura jamais de progression. Chaque chapitre peut être lu indépendamment, il n'y a pas vraiment de big salopard qui arrive et qu'il n'arrive pas à buter, qui va revenir après, il n'y a pas de méchant récurrent. Non, c'est gentil, si vous voulez pas vous prendre la tête.
Voilà quoi, c'est de l'action bas de gamme, on dirait une OS série B.
C'est de l'action bas de gamme parce qu'en plus la nana qui l'accompagne, elle est légèrement sexy, on voit un peu ses nichons à un moment donné, mais il n'y a rien de très sexe non plus. Les tueurs, il y a des meurtres, mais ils sont traités quasiment hors champ, donc en fait ils tuent des mecs, mais c'est comme s'il avait renversé son café. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment d'implication dans les décisions qu'il prend.
En soi, c'est un beau loupé.
Et puis, il aurait pu se poser des questions, genre de conscience, genre, ah ouais, si je tue un mec. Alors, au début, il dit, je veux tuer personne. Là, on est au deuxième tome, il a déjà tué plein de mecs, mais il s'en fout en fait. Au début, il disait, ouais, je veux tuer personne, mais là, non, c'est bon, on a dépassé le stade. Voilà. Donc, Hitman Part-Time Killer, tome 2 de Hiroshi Muto, c'est édité chez Ankama. Et voilà, pour ceux qui aiment bien lire aux toilettes, quoi.
Je sais pas quoi dire de plus de ce côté-là. T'avais le dernier
Atsushi Kaneko
qu'on a reçu, qui est vraiment, c'est un dessinateur de manga, mais attention, c'est ce qu'il fait n'a rien à voir avec le manga conventionnel. D'abord, il travaille plutôt avec des éditeurs qui sont plutôt soit underground, soit des éditeurs de livres d'art, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ce qu'il fait est plus proche, je vais dire, de Pierre Rouin en France ou ce genre de choses.
Alors là, par contre, c'est pas du tout la même chose. Ça vous laisse une sale impression dans la bouche en ayant. Enfin, c'est assez désamorcé. C'est-à-dire que c'est moi j'ai un peu, enfin, dans le sous le trait de Urasawa, l'auteur de Monster, ça aurait pu donner un truc, mais vraiment qui t'assomme. Sauf que là, l'auteur, il a un style graphique, on dirait de l'illustration de notice d'avion, tu sais, avec quand il faut mettre le masque là et tout, c'est super super figé et tout. Mais finalement, ça fonctionne super bien parce que ce style-là, tu te dis non, c'est pas possible, c'est vraiment outré comme dessin, et ça désamorce totalement le côté glauque de l'histoire, parce que c'est vrai qu'en matière de glauque, rien ne nous est épargné. Donc on a du chantage, des viols sur mineurs, des automutilations au cutter, du voyeurisme. Alors, Sol Newton, c'est une ville nouvelle au Japon, c'est-à-dire que c'est... Oui, c'est le tome 2, ouais. Ah,
faut dire que la précédente œuvre qui a été traduite de lui, c'était Bambi, et c'était du même niveau. Hein. Ouais.
Mm. Voilà, et donc c'est dans une ville nouvelle, donc qui est surgie nulle part, et on s'aperçoit... Alors, il y a des espèces de flashbacks super bizarres où on voit un mec qui égorge plein de paysans au temps du Japon médiéval. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans cette ville où toutes les fleurs sont à leur place, qu'il y a un délégué qui s'occupe de tout le monde, toutes les rues se ressemblent, tout est perpendiculaire, bien propre et tout, et puis à un moment donné, il y a une disparition d'une famille, les deux parents et la fille, et les enquêteurs, ils piétinent, ils savent pas ce qu'il y a, et en plus, le truc super bizarre, c'est qu'il y a des énormes montagnes de sel qui sont retrouvées dans la cour d'école et dans la famille.
Et dans la pièce aussi.
Et dans la pièce de la famille disparue. Ouais. Et là, on en apprend un peu plus pourquoi la famille a disparu, et puis on s'aperçoit aussi que tous les autres habitants, ils lui en voulaient un peu, donc ils leur cassaient les vitres, ils leur foutaient toutes les plantes sur la porte et tout, et puis là, on voit pourquoi le mec, il passe son temps à se tripatouiller dans des immeubles désaffecté en se marquant au cutter aussi, on sait pourquoi il a un peu fêlé le mec. Faut dire qu'avec ce qu'il a vécu, tout le monde serait un peu fêlé. Donc c'est vraiment une plongée dans le glauque, mais qui est désamorcée par je ne sais quoi, peut-être par le graphisme, peut-être par un humour complètement décalé, parce que les deux enquêteurs, c'est vraiment des timbrés aussi. Et on s'aperçoit que au fil des chapitres, qu'il n'y a pas un seul personnage normal dans ce manga. C'est-à-dire que soit ce sont des pervers, soit ce sont des violents en puissance, des psychopathes en puissance. Voilà, c'est que du... c'est que... Voilà, c'est une plongée.
Non, mais ce que tu veux dire, c'est que, en fait, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une espèce de plongée dans le glauque, dans des trucs inavouables, on sait pas trop où on va arriver. Mais en fait, c'est généralement dans une narration classique, on va monter plus ou moins crescendo comme ça, quoi, jusqu'au peut-être au twist final ou à la révélation qui va nous faire grimper. Alors que là, la narration est complètement différente parce que bon ben, il y a l'espèce de mini crescendo comme ça. Hop, une scène suivante qui désamorce carrément l'effet, ça remonte et tout. Alors c'est un espèce de ballet comme ça incessant de montée, de descente dans la tension, dans l'angoisse, dans le questionnement, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Et puis jouer avec la narration, puisqu'à un moment donné, tu te retrouves avec la moitié du tome, c'est un flashback et tu vois pas venir. Tu dis, et pourquoi il est là? Alors tu regardes en arrière, tu dis, ah, mais oui, non, lui, il est censé avoir disparu, donc c'est avant, d'accord. Et puis à un moment donné, tu peux avoir, bon, je finirai là-dessus, un personnage encagoulé dans la rue, c'est une mise en scène sur plusieurs pages, elle avance et tout, il y a des espèces de chenilles qui sortent d'elle et tout, puis il y a un flic qui est de dos. Et puis à un moment donné, il est attentif parce qu'il a un bruit, il se retourne. Alors là, on se dit, bon, il va se faire poignarder et tout, et puis, ah, c'est vous, madame machin. Elle a la vieille, tout à fait ravagée et tout, c'est normal, elle est là, bon. Là,
elle a d'ailleurs le visage ravagé parce que c'est une survivante d'Hiroshima en plus.
Ouais.
Alors, je vous invite quand même à aller écouter l'interview qu'on avait fait de Atsushi Kaneko il y a 4 ans.
Ouais.
4 ans à peu près, je crois, c'était lors du festival d'Angoulême, donc sur le site suppléantweekend.fr. On est très surpris aussi de toutes les inspirations qu'il a. Et puis c'est vrai que graphiquement, on se prend une claque en général. Voilà. Si vous n'avez pas vu la série Bambi, qu'il a dessinée graphiquement d'une manière absolument magistrale, c'est là aussi, c'est une grande découverte que vous allez vous prendre dans la gueule.
Voilà, donc c'est Soil, tome 2 de Atsushi Kaneko, dans la collection Toujours Kukuri Manga chez Ankara.
Cinéma ?
Allez. Allez.
Oui.
Alors, aujourd'hui, on parle de Takeshi Kitano, ou Beat Takeshi, ou The Two Beats, ou le pape du Manzai. Enfin, bon, voilà, il a plein de surnoms.
Tu veux dire, le mec est capable de se prendre un accident de scooter sur l'unique trottoir qu'on trouve à Tokyo ?
C'est ça, c'est lui-même, mais j'en parlerai dans la chronique, t'inquiète.
Pardon, vas-y.
Donc, c'est un bouquin écrit par Michel Téman, et c'est édité chez Grasset. Donc, Michel Téman, c'est un correspondant de Libération et West France au Japon. Alors, c'est pas n'importe qui non plus. Alors,
qui a fait aussi deux bouquins, il me semble, sur le cinéma asiatique auparavant.
Alors, ça, c'est dans les références à la fin, mais j'ai pas pensé à vérifier. mais on voit que c'est quelqu'un qui connaît bien la culture japonaise, oui. Alors, Kitano, bon, tout le monde a l'image de Kitano qui fait des films de Yakuza. On sait vaguement qu'il c'est un peu l'équivalent de Coluche là-bas, mais en beaucoup plus connu et beaucoup plus présent à la télé. Parce que
j'en parlerai tout à l'heure.
Parce qu'on l'a déjà vu déguisé en tapette géante ou en poussin, voilà. Kitano, on sait que bon, c'est un mec un peu bizarre, qui a la moitié du visage paralysé. Bon, c'est tout un peu ce qu'on sait aujourd'hui de notre point de vue d'occidental. Alors, justement, dans ce bouquin, il revient parce que ce sont des morceaux d'interview et d'entretien de Kitano. Et puis, il y a aussi des commentaires en italique de l'auteur du bouquin qui dit: tiens, là, à ce moment-là, pour étayer ses propos, il va me montrer une pièce secrète chez lui, ou il va nous montrer des peintures originales que lui a allégué Kurosawa, ou bon, là. Va désamorcer, il va apporter un éclairage en plus. Donc là, on voit, donc on peut lire Kitano qui revient sur son enfance pauvre, donc son père qui s'appelait Kikujiro, donc, puisque l'été de Kikujiro est un hommage à son père, qui lui a jamais adressé la parole de sa vie. Et le seul moment où il a pris la peine de parler avec lui, c'est qu'il a amené un jour, un week-end, il l'a amené à la mer. Mais juste un après-midi, et puis ils sont revenus. Donc c'est de là qu'est venue son obsession pour la plage et pour la mer, qui est à la fois source de fascination et aussi symbole de la mort. Donc ça l'a marqué dans sa jeunesse. Ensuite, on revient sur son enfance ses débuts dans le milieu artistique, dans le quartier d'Azakusa, puisque c'est le quartier où il y a tous les théâtres, les cabarets. Voilà. Donc il a commencé, il a sous l'égide de son maître qui s'appelait Monsieur. Je vais noter après. Bon, j'y reviendrai après. Sous l'égide d'un maître, il a appris la danse, il a appris les claquettes, il a appris à parler sur scène et tout. Au départ, il a commencé à mettre le pied dans les théâtres en tant qu'homme de ménage. C'est après qu'il a été remarqué, qu'il a fait quelques remplacements sur scène, et puis au fil des années, il a eu son propre spectacle. Donc justement, son goût pour les claquettes, il témoigne qu'il s'entraîne encore aux claquettes tous les jours, en mémoire de son maître qui est disparu depuis. Et donc il forme d'ailleurs, le goût pour les claquettes, on le retrouve dans le film Zatoichi, puisqu'à la fin, on voit que tous les personnages font un numéro de comédie musicale en claquettes. Et il forme le duo comique The Two Beats avec un pote à lui, voilà, qui. Donc c'est un genre le manzai, c'est-à-dire c'est un duo comique où chaque personnage, c'est un peu. Peut-être qu'on pourrait voir une transplantation ici avec Chevalier de la Spalès, mais en beaucoup plus rapide, c'est-à-dire il y a un qui parle et l'autre c'est un débit mitraillette. C'est
quelque chose qui est assez courant en Asie, puisqu'il y a les Show Brothers par exemple à Hong Kong avant qu'ils aient monté, je veux dire, leur industrie. C'est quelque chose qui est très 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 présent et qui permet justement, comme tu dis, c'est très rapide, ça va un rythme très fort, donc c'est du gars qui est enchaîné à toute vitesse.
Voilà, donc en plus, dans son film aussi semi-autobiographique qui s'appelle Kids Return, on voit aussi les duos, le duo de... comme c'est, ça se passe dans le milieu lycéen aussi, on voit qu'il y en a deux qui s'entraînent au manzai aussi, donc on voit un peu comment ils apprennent ça. Alors il y a une anecdote assez poignante en 83, puisqu'il a acquis à cette époque-là une certaine notoriété en tant qu'artiste. Il revient voir son maître, donc Monsieur Senzaburo Fukami, qui lui avait tout appris dans le milieu, pour lui offrir un peu d'argent, parce que là au Japon c'est assez courant, quand tu as réussi tu reviens pour offrir un peu d'argent à ton maître. Alors avec cet argent, son maître dans la nuit sort s'acheter des clopes et de l'alcool, et dans la nuit, eh ben, il périt dans son appartement qui a brûlé, et l'enquête conclut que le départ de l'incendie avait été un mégot mal éteint. Et donc Kitano témoigne, dit: bah oui, c'est un peu ma faute si mon maître est mort, quoi. J'ai donné de l'argent pour s'acheter un mégot qui l'a brûlé. Ensuite, ensuite on voit ses débuts à la télévision avec donc les Two Beats, puisqu'ils ont ils sont très présents à la télé. Finalement, il fait une carrière solo, il s'appelle Beat Takeshi. Alors il forme une espèce de caste autour de lui qui s'appelle les Gundan. Donc ce sont des artistes qu'il a recueillis sous son aile. Alors ce sont des anciens fils d'hommes qui les battaient, ou des gens qui avaient quand même un premier pied dans le milieu artistique. Et c'est toute une espèce de cohorte qui le suit de partout, même chez lui et tout. Et d'ailleurs, il y en a un, alors il les présente tous un par un. C'est une vingtaine de comédiens, et d'ailleurs, il y en a un qui est sorti de l'égide de Kitano et qui est devenu depuis gouverneur d'une province du Japon. Il s'est lancé dans la politique et il a été élu. Et dans une province qui présente la particularité, selon Kitano dans le bouquin, d'avoir élu que des gens qui avaient été. Qui avaient plongé pour corruption.
C'est l'ambiance. Ou alors c'est l'humour.
Oui, bah ouais, alors il faut pas prendre tout au pied de la lettre de ce qu'il dit, parce que même le journaliste il dit c'est difficile à croire des fois, parce que il se la joue aussi un peu, et puis il entretient un peu son personnage un peu insaisissable. Alors il parle aussi de, donc il devient une bête de télévision, il parle de son emploi du temps, donc une semaine de tournage à la télé alternée avec une semaine de tournage cinéma, donc soit il monte, soit il réalise, soit il joue dans des, dans d'autres films que les siens. Alors justement, il y a une citation, parce qu'il parle de son emploi du temps. Alors il dit, bien entendu, m'occuper chaque semaine d'autant d'émissions, les présenter, les produire, demande un minimum d'organisation et beaucoup de discipline. Car je travaille tous les jours, toute l'année, je n'ai pas un jour de repos, ma vie quotidienne est dictée, décidée, réglée de longs mois à l'avance, elle est rythmée selon le calendrier de mes nombreuses émissions enregistrées en studio ou retransmises en direct. Au printemps, mon emploi du temps quotidien est toujours bouclé jusqu'en décembre, en hiver, mes journées d'été sont déjà préprogrammées, c'est ainsi. Alors le mec c'est un bourreau de travail, il dit qu'il supporte pas les vacances, il a jamais pris un jour de vacances de sa vie, il dit vous l'envoyez en vacances au bord de la mer, au deuxième jour il va péter un câble, il va se mettre sur un projet ou il va écrire un scénario de film. Donc voilà. Alors le mec, il plante le décor, donc il dit que ses émissions, bon, c'est comme si aujourd'hui en France on avait une espèce de Coluche remixé avec Drucker, que vous verriez au moins 2 heures ou 1 heure par jour, toute la semaine. Mais sur plein de chaînes différentes en plus. Là, alors il dit tiens, ça c'est. Alors il présente chaque émission, alors il dit tiens, c'est une émission produite par telle chaîne, après telle chaîne, après telle chaîne. Alors là, j'essaie de vulgariser la peinture. Ici, c'est une espèce de talk show sur le monde politique. Alors moi, je me contente juste de balancer une vanne de temps en temps. Quand ça me plaît pas, je somnolence en douce. Alors le journaliste, il dit Kitano, c'est quelqu'un qui sait bien s'habiller, sauf qu'il se tient comme une merde en fait. Il est toujours avachi, il commence à somnoler, après il se réveille, il balance une vanne. Ah après, les Japonais sont habitués à ce genre de truc. Bon, enfin, chez lui. Alors, il poursuit sa carrière d'amuseur public. En moyenne, quand même, ses émissions sont vues par 10 à 15 millions de téléspectateurs. Et alors ensuite, il aborde sa carrière cinéma. Alors, il a commencé chez Nagisa Oshima dans Furio, aux côtés de David Bowie. Ensuite, il remplace au pied levé le réalisateur Kenji Fukasaku, qui est le futur réalisateur de Battle Royale, donc pour réaliser son premier film Violent Cop. Alors déjà, c'est comme si aujourd'hui... la gaffe, il se mettait à faire un film sérieux, mais réalisé, joué par lui. Non, s'il y a eu le baltringue, non, c'est vrai. Bon. Il avait aucune crédibilité à l'époque. Alors ce n'est qu'à l'époque de Sonatine, alors le film qu'il a un peu contribué à le faire connaître en Occident, qu'il distribue à l'étranger, donc notamment dans le festival du film policier de Cognac, qui change un peu la manière qu'ont les Japonais de le voir. Sauf que ce film dans lequel ils fondaient beaucoup d'espoir est complètement reçu négativement par les critiques de là-bas, et justement il tombe dans la dépression. Et puis, rien ne va plus pour lui, il est très touché par l'accueil négatif. Et donc vient le fameux accident de scooter. Et alors, il n'est pas con parce qu'il sait que toute sa carrière, enfin les gens, ils retiendront aussi ce fameux accident qu'il a laissé à moitié paralysé et qui est déclencheur de son style de jeu d'aujourd'hui qui est super hiératique, quoi. C'est, voilà, je joue d'un côté de mon visage. Alors il dit pas... qu'est-ce qu'il avait en tête quand il s'est pris le trottoir ? Il dit « Avec le recul, je crois également que j'étais épuisé, surchargé de travail, énervé, laminé par un excès de projets. J'avais l'impression de tourner en rond, d'être incapable de me renouveler. Je reproduisais des schémas créatifs déjà utilisés par le passé. J'étais en quête de nouveautés et d'air frais. Je cherchais du neuf chez les autres, mais je ne trouvais rien. Petit à petit, j'ai atteint un seuil critique, un état extrême. La suite, là, se passe cette nuit-là sur mon scooter, l'accident, la chute. » Alors, il explique il dit... ce dont je me souviens, c'est que le soir précédent l'accident, j'étais dans un izakaya, donc c'est une brasserie populaire, entouré d'amis. C'était aussi un moment de ma vie où j'étais assez souvent coursé par des paparazzi, alors pour les semer, je n'hésitais pas à utiliser mes deux roues. Cette nuit-là, j'étais parti à un rancard à 3h du matin. Un rancard, on ne précise pas ce que c'est. Puis, ce fut l'accident, je me suis écrasé contre une rambarde. On m'a retrouvé si défiguré, le visage si amoché que d'après ce qu'on m'a dit, le docteur avait conclu que c'était comme si j'avais roulé volontairement, désespérément vers la mort, comme si j'avais accéléré sans jamais utiliser les freins, comme si je m'étais tiré une balle dans la tête. Je n'en suis plus tout à fait certain, mais un instant avant le choc fatal, j'ai peut-être crié « Go !» et foncé. Il dit peut-être. Donc il dit pas j'ai voulu en finir, j'ai pas voulu en finir, il dit j'ai peut-être crié go. Alors voilà, il me semble que je n'avais pas bien attaché mon casque demi-bol, ma tête a fini encastrée dans l'acier de Tokyo. Alors, on m'a récupéré en piteux état, couvert de sang, la tête en morceaux avec de multiples fractures, j'étais totalement défiguré, mon visage à moitié broyé. J'avais la mâchoire brisée et plusieurs fractures crâniennes, un œil avait été atteint, je n'étais pas beau à voir, j'étais si abîmé que les ambulanciers ne m'avaient même pas reconnu. Ce n'est que quand il a commencé à guérir à l'hôpital qu'ils ont vu que c'était Kitano. Alors voilà, ça explique, bon, c'est pas un accident, c'était pas de la gnognotte.
Enfin, c'était une rumeur qui courait dans les milieux spécialisés depuis un bail.
Et puis c'est étrange, parce que dans Sonatine, juste avant son accident, il finit par se suicider. Donc bon, il dit, j'ai peut-être pas voulu en finir, et peut-être que si, bon voilà, il ne dira jamais s'il s'est suicidé ou pas. Voilà, donc il se reconnaît cinématographiquement deux maîtres, Nagisa Oshima et Kurosawa, qu'il a rencontré, avec qui il avait fortement sympathisé. Donc il y a eu tous ces grands films ensuite, après son accident, donc Kids Return, où il s'est remis de son échec critique avant, il s'est remis de son accident, il y a eu Hanabi qui a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise et il a tout cartonné depuis. Chaque film est reçu à la Mostra de Venise. C'est là que le regard des Japonais commence sérieusement à changer sur lui. Il y a eu L'été de Kikujiro, Aniki mon frère qui l'a tourné aux États-Unis, et puis la trilogie du double pour se relancer avec Takeshi's Glory to the Filmmaker et Achille et la Tortue, où c'est une trilogie de films sur le côté un peu schizophrène de sa carrière, où c'est un amuseur mais en même temps un gars sérieux. Donc il était en blond et il garde cette teinte blonde pour le film Zatoichi, qui c'est le seul film qui va cartonner au box-office et qui va gagner des millions de dollars. Jusqu'à présent, il avait toujours gagné beaucoup avec la télé et ses films étaient toujours des bides, et c'est à partir de Zatoichi qu'il commence à devenir bankable. Donc voilà, donc après s'en suivent rapidement des digressions sur la société japonaise, sur la politique, sur son combat en Afrique pour les plus démunis, où il a contribué à faire construire des écoles là-bas. Donc en tant que japonais, il est tout à fait modeste, puisqu'il aime pas trop s'épancher sur ses actions caritatives. Et alors c'est marrant parce que justement à travers ce livre on voit que Kitano c'est quand même un personnage super complexe, parce que il aime bien qu'on parle de lui, mais dès qu'il y a des éloges il essaie de, par une blague complètement hors de propos ou qui tombe à plat, il essaie de désamorcer le truc, parce qu'il se dit bon voilà, peut-être qu'il est pas à sa place, ou il déteste tous ses films. Il espère que les gens verront qu'il aura fait des bons films, mais il les déteste tous. Donc c'est assez bizarre, parce que quand tu fais des films, il dit qu'il adore le cinéma, et il dit que par rapport à des grands réalisateurs, il connaît rien du cinéma, mais il adore faire du cinéma. C'est super bizarre. Il dit que il connaît peu de films, mais il va quand même, pendant un chapitre entier, de citer tous les films qu'il adore, Taxi Driver, du film américain La Nouvelle Vague. Donc c'est un mec qui va dire qu'il va s'intéresser à un type de film, mais il a peur d'être catalogué, donc il va se rebrousser chemin à un moment donné. Donc voilà, c'est super intéressant. Il y a plein de trucs à dire sur son interprète béninois qui a fait qui a une vie aussi lui complètement frappadingue. Bon voilà, c'est Kitano par Kitano. Si vous aimez ses films, c'est l'occasion de voir des explications sur ses propres films, mais aussi des explications sur sa carrière télé et sur sa carrière tout court, comment il a débuté sur les planches, voilà. Donc Kitano par Kitano chez Grasset par Michel Théman, et c'est je recommande pour les fans de Kitano. Il y a beaucoup de photos aussi de lui dans son atelier, etc.
Et puis j'aime beaucoup quand même la couverture. Donc c'est un portrait de Kitano sur lequel il cache une partie de son visage. Je laisse le suspense,
je sais pas si c'est la partie paralysée qui cache ou l'autre, je sais pas.
Et je crois que c'est la partie paralysée qui est montrée en fait. D'un autre côté, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on connaît très 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 peu en France, de ce côté-là, et qui a en plus pas mal de succès critiques justement dans notre pays et pas dans le sien.
C'est en train de changer. Mais alors, petite précision, c'est que ce bouquin je l'ai acheté à la Fondation Cartier, puisque je suis allé cet été voir l'exposition Kitano.
Kitano par Kitano, si je me souviens bien.
Non, c'était Gosse de peintre. L'expo, et en fait c'était à un moment donné, tu entres dans une salle avec un énorme rideau, il y a marqué voici le vrai Takeshi, et là il y a plein d'écrans qui retransmettent ses facéties à la télé japonaise. Alors on voit Takeshi Castle, on voit mais plein d'apparitions, mais c'est des costumes, mais n'importe quoi. il est déguisé en animaux, enfin c'est n'importe quoi ce type, voilà.
Ça tombe bien parce que j'allais parler du pire de la télé, parce que ça fait 5 ans que l'on a lancé la télévision numérique terrestre en France.
Alors juste avant d'enchaîner, puisqu'on a nos invités qui font un TGS ou un ami, vous est-ce que... Alors on sait que vous êtes partie prenante dans l'animation, dans les jeux vidéo, dans la culture japonaise. Est-ce que le cinéma, est-ce que quelqu'un comme Kitano vous est, est-ce que vous connaissez, est-ce que...
Alors moi on connaît, oui, mais enfin moi en tout cas ce qui me concerne. Mais après c'est vrai que moi j'ai des goûts de merde dans le cinéma, mais je les revendique parce que par manque de temps et quand moi
donc
je vais au cinéma, j'ai besoin
de voir Too Fast Too Furious.
Ah non, alors non, quand même pas jusque là. Mais
bon, c'est quand même
dommage.
J'ai quand même des goûts. Mais j'aime bien les super productions américaines, voilà. Mais bon, il y a des limites quand même.
Il y a des limites.
Et alors, oui. Il y a une chose qu'on a évité pour cette émission, c'est qu'il y avait un top 5 des plus grandes vagues de tsunami de cinéma. Donc, on l'a évité.
Et alors, avant de, que tu te.
Ah, ouais, vas-y. Oui, pardon. Alors, moi, je connais bien Kitano. J'ai adoré Aniki, mon frère. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai découvert Kitano. J'ai adoré Akira Kurosawa, pardon. J'ai adoré aussi certains de ses films qui sont peut-être moins connus en France, justement, parce que c'est des vieux films de samouraï. Et je pense pas que le gars lambda dans la rue connaîtra ce réalisateur-là. Et puis après, bon, d'autres films de personnes qu'on connaît pas forcément. Returner, j'ai aimé, voilà. Y a des gens qui ont pas aimé. Moi, j'ai adoré.
Ah, Returner.
Ah oui.
Ah bouh.
Ah écoute, voilà.
Coupe le micro.
Battle Royale, j'ai pas vu le 2, hein, mais Battle Royale, voilà, c'est, en plus avec Kitano, donc voilà. Non, le cinéma japonais, j'aime beaucoup. C'est bizarre à première vue, mais j'aime beaucoup, en tout cas.
Alors, juste une autre question par rapport au TGS. On va déborder allègrement, mais c'est pas grave.
Non, mais c'est qu'il faut les libérer.
Bon, du coup, il y a les fans de SF qui viennent et les fans de toute la partie japonaise. Est-ce que, bon, toi, Sébastien, t'es pas tout seul dans l'organisation du TGS. Il y a une armada de collaborateurs avec toi. Est-ce que c'est bicéphale? Est-ce que vous faites des bastons entre les fans de SF qui, bon, et manga, et puis les fans de manga, et puis...
Non, parce que justement, on a la chance d'avoir des thématiques qui touchent, enfin, qui rassemblent, quoi. C'est-à-dire que c'est rare quand même qu'un fan de manga n'aime pas du tout la SF. Et puis voilà, les gens qui viennent chez nous qui aiment la SF, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils vont voir aussi. Donc, on arrive à voir des
portes des étoiles.
Oui, ouais, ceci dit, il y a beaucoup de fans de comics qui n'ont jamais vu une seule page de manga de leur vie, pour parler de bande dessinée par exemple.
Oui, mais le truc, je sais pas si t'as vu, derrière, au TGS, ça fait 2 ans qu'on a du comics. Hein, oui. Voilà, mais c'est vrai que. C'est pas la partie la plus représentative sur le salon, mais ça y est, et si on peut donner envie aux gens de commencer à regarder un petit peu, ben, tant mieux.
Je vais faire la transition, non, parce que c'était aussi un sujet qui, alors qu'on discutait du planning de l'émission, parce que ça fait 5 ans qu'a été lancée la TNT, où j'avais fait une intro, je sais pas si vous l'avez lu ou écouté à l'époque, où j'avais été violent vis-à-vis des chaînes de télévision. Il faut peut-être faire, à partir de maintenant, un bilan de toutes ces chaînes qui ont été créées grâce à l'explosion de la télévision numérique, qui sont arrivées exprès pour. Il y en a eu tout plein de ces chaînes, alors qu'on parle peut-être de créer de nouvelles chaînes en plus derrière sur la TNT. Et ma foi, il fallait faire un moment les meilleurs moments des pires chaînes.
Oh, tu dis meilleurs moments. Ça veut dire.
Je les ai classés.
Oh, ça veut dire c'est un top.
Ouais.
Et qui dit top?
Il dit le top 5.
Le top 5. Numéro 5.
Du meilleur des pires moments de la chaîne de la TNT, et ben ça reste peut-être l'ensemble de la programmation de NT1, peut-être la chaîne la plus pauvre, des séries allemandes, des téléfilms acquis en bundle, des films avec Steven Seagal, mais direct ou vidéo quand même, sans compter Le Miel et les Abeilles, Hélène et les Garçons. Et oui, le groupe AB est allé très loin pour refiler la chaîne la plus vide à TF1. Néanmoins, petite curiosité dans les séries, c'est Eureka. Qui a un truc assez rigolo et ça passe le samedi soir. Et peut-être que pour ça, ça va les sauver, mais oui, peut-être.
Moi, ouais, non, c'est rediffusé, quoi. De toute façon, quoi, oui, c'était passé sur
Moi, je dis une
club.
Chaîne qui diffuse du Steven Seagal, c'est pas totalement pourri non plus.
Non, c'est vrai.
Ça pourrait être pire, ça pourrait être AB1. Hein.
Numéro 4.
Des meilleures, des pires chaînes de la TNT, ça reste LCP, la chaîne parlementaire, pour son fameuse émission que nous suivons tous, un député, un jour. Faut dire qu'il y a 577 émissions renouvelées tous les 5 ans. Et puisque on enchaîne derrière sur la chaîne Sénat par les auditions d'une commission d'enquête, difficile de faire plus niche comme chaîne. Ce qui dérange peut-être, c'est son budget absolument démesuré. Non, sur la chaîne Sénat, ce qui me dérange peut-être, c'est le melon incroyable, celui qui fait une émission de BD, mais ça, c'est autre chose.
Numéro 3.
Des chaînes, des meilleurs moments, des pires chaînes de la TNT, ça reste les Simpsons sur W9, multidiffusés dans le désordre, remontés, recoupés, réétalés, remis dans le désordre. Non, en fait, peut-être le pire moment de W9, ça reste Menu W9, qui est peut-être la catastrophe continue, même s'il passe du beat Takeshi, ou peut-être pire que Dilem, mais Dilem ne durait qu'un temps.
Non mais attends, il critique pas les Simpsons, il critique la diffusion des Simpsons.
Ouais, content de voir les Simpsons.
Exactement.
Même en désordre. Mais oui, mais c'est dans le désordre, on comprend pas pourquoi il les passe comme ça.
Mais c'est pas grave, ça permet de revoir des choses.
Et puis il coupe, et puis on a plus tout ça, et puis on comprend plus rien.
Non non, mais c'est une erreur.
Le jingle est sympa. Le jingle de W9 est sympa.
Oui, sympa.
Oui, ça c'est de la. Ça dure 5 secondes.
Puis menu W9 passe à vrai, c'est du Takeshi,
oui, Takeshi Castle.
Et ouais, grâce à ça, je pense que ça a pu cool. démocratiser le truc.
Par contre, ils auraient pu,
oui, c'est vrai.
Pu se dispenser de le faire commenter par les ex de
oui, ça, Boys. Contre,
ça, le body commenting, cette plaie française.
C'est un peu comme Carré VIP, il y a des erreurs de casting.
Attention, j'y suis pas encore. Le top 5 des meilleurs moments des pires chaînes de la TNT.
Numéro 2.
C'est les diffusions des séries sur NRJ 12 et puis les infos de NRJ 12 parce que si c'est pas assez people, ça le fait pas. Hein. Alors on passe des séries de Roger Hanin, hein, pensons à tous ces jeunes qui n'ont jamais vu sans compter un traitement son absolument insupportable. Je vous déconseille d'écouter cette chaîne au casque puisqu'ils sont, en fait c'est le truc des radios du groupe de NRJ, c'est ils mettent un effet de spatialisation. Comme le son est en mono et qu'on le transforme en 5.1, ça fait le son qui va du tout. Et au casque, c'est une horreur. À la télé, ça passe encore, mais je peux vous dire que si vous mettez au casque faiblement, pour pas que votre copine écoute, soit réveillée parce que vous regardez Stargate Universe, dont la fin de la série est passée enfin à 4h du matin, tu vois, en diffusion unique.
Tu parles, regardez Navarro.
D'accord, voilà. Mais non, le top, la première des meilleures chaînes, des pires chaînes, des chaînes de la TNT, hein ?
Numéro 1.
C'est Direct 8 pour cette émission que nous n'avons pas oublié. Boîte de nuit. Il faut dire qu'après être allé jusqu'au bout du direct intégral du concept conceptuel, comme par exemple les jeunes posent des questions à Alain Minc, Direct 8 passait pendant la première année un programme qui était basé sur une diffusion de ce qui se passait sur un dance floor d'une discothèque de banlieue parisienne.
Ouais, mais filmé c'est en studio,
par,
quoi.
Filmé par deux caméramans stagiaires qui faisaient comme ça et qui faisaient des zooms en arrière, en avant, parce qu'ils n'avaient pas d'effet de transition ni quoi que ce soit, ils étaient en cut. Mais après, ils sont allés plus loin, puisqu'ils sont allés jusqu'au pompage intégral des 6 chaînes historiques dans les concepts, les émissions culinaires, les émissions sportives, les rediffusions des victoires des Bleus en 98. On se demande ce qu'il y a encore en direct sur Direct 8. Ah oui, peut-être pour la rediffusion ce matin de Morandini spécial. Carré VIP s'arrête, mais qu'est-ce que vont devenir sans les célébrités ? Et on se dit que peut-être Direct 8 est peut-être la meilleure des pires chaînes de la TNT française. Laissement totalement subjectif. Du sport. Non mais ça va, t'as foutu l'ampli sur 11, rigolo.
Come on, they can't. ton déjà.
Tu peux annoncer le morceau ?
Le nom du morceau, non, mais le nom du groupe, ouais, c'est un groupe japonais, donc The Michel Gun Elephant.
Le morceau, c'est Death Star.
Voilà.
And,
ouais.
Voilà, et on remercie beaucoup Rafi et Sébastien qui, donc, ils ont de l'organisation à faire, ils sont venus pour manger pendant notre émission. Et du coup, on va les laisser, on les retrouve la semaine prochaine.
C'est surtout qu'on ne voulait pas écouter du sport, c'est pour ça en fait on part avant.
Vous avez raison, parce que la semaine prochaine, vous n'aurez pas le temps de regarder la télé cette semaine. Hein.
Je m'en souviendrai. Je viendrai vous le pourrir, votre TGS. Vous n'en faites pas.
Vas-y, Dus.
Allez, donc, The Michel Elephant Gun, Gun Elephant, un groupe japonais. Donc, là, on va parler quand même du seul événement qui a l'air d'être potable cette semaine. C'est la diffusion de cette nouvelle série qui s'appelle Persons Unknown sur TPS Star à partir de lundi. Et si je vous dis que cette série a été créée par un certain Christopher McQuarrie, vous dites « Ah oui, ah ouais, pas mal !»
Usual Suspect, Way of the Gun.
Oscar du meilleur scénario pour Usual Suspect. Et c'est également un petit peu le scénariste attitré de Bryan Singer puisqu'il a également fait le scénario non crédité des X-Men, de Valkyrie, Bryan Singer. Et il a également réalisé un excellent petit film de série B qui s'appelle Way of the Gun, qui est vraiment très très bien, vraiment sympathique. Et c'est donc lui qui crée et qui est producteur également sur cette série qui s'appelle Persons Unknown, qui a été diffusée déjà sur NBC l'année dernière, de juin à août. Il n'y a que 13 épisodes, mais c'est un concept qui est assez, on va dire, original. On va dire, on a déjà vu des précédents dans ce genre-là, la situation d'enfermement, la situation de solitude et tout ça. Là, solitude un petit peu moins, car il s'agit de 7 personnes qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent sans savoir comment dans une ville déserte qui est truffée de caméras de surveillance et qui empêche également toute tentative d'évasion. Voilà, le pitch est hyper simple, mais bon, ben, on va pouvoir suivre le cheminement de ces 7 personnes à l'intérieur de la ville, donc qui ne se connaissent pas, qui vont devoir plus ou moins s'unir ou plus ou moins se taper sur la gueule, quoi, pour savoir comment sortir. Et le cheminement parallèle d'une enquêtrice, d'une journaliste qui est à l'extérieur donc, de cette ville et qui cherche à savoir où sont passées ces personnes qui sont disparues. Donc, avec dans les rôles principaux Jason Wiles, qu'on a déjà vu au cinéma dans le Zodiac de Fincher, mais également dans les séries comme Le Beverly Hills et surtout dans New York 911, où c'est lui qui joue le rôle de Bosco. Eh oui, rappelez-vous, Bosco. Candice McClure, qu'on a vu dans beaucoup de bonnes séries, Dark Angel, Jeremiah, Battlestar Galactica, Andromeda, Smallville, Sanctuary, et j'en passe, et des meilleurs.
Ah oui, bon, ça va, il en a loupé aucune là.
Ouais, et Alan Ruck, qu'on connaît également. Pas mal, parce que bon, c'est une de ces gueules que tu dis, ouais, j'ai déjà vu cette gueule de mec, mais je me souviens pas de son nom et tout. Tu m'étonnes, parce qu'il est toujours dans les 3e ou 4e rôles. il a commencé dans les années 60-70, il a tourné dans La Folle Journée de Ferris Bueller, dans le film Speed, dans Star Trek Generation, dans Spin City, il a un rôle récurrent, dans Scrubs également. Bref, il y a également Lola Glodini, James Reed, Victor Alfieri dans cette série qui s'appelle donc Person Unknown et qui sera diffusé à partir de lundi sur TPS Star, 20h40, 2 épisodes, donc il n'y a que 13 épisodes. La série pour l'instant n'a pas encore été reconduite, ce qui fait que l'astuce des scénaristes et de Christopher McQuarrie, c'est de proposer une fin carrément une fin de saison qui est une fin de série, mais qui peut être évolutive, c'est-à-dire qui peut conduire, qui est complètement ouvert, qui peut conduire à une série 2, si jamais, une saison 2, si jamais on débloque le pognon pour faire la série. Donc c'est pas mal, ça peut être sympathique. Bon, c'est un petit peu dommage que ce soit diffusé sur la chaîne satellite, on va dire, hein, de Canal Plus et de TF1. On a également au niveau série inédite, là c'est un petit peu plus anecdotique, c'est sur Teva, c'est de la sitcom et ça s'appelle Parents par accident. Alors ça raconte l'histoire et c'est retour hein, à l'écran de Jenna Elfman. Jenna Elfman, c'est bien entendu la série Dharma and Greg et qui là joue le rôle d'une critique de cinéma qui est à San Francisco dont la vie sexuelle est assez vide, sa vie amoureuse également, et qui rencontre un soir un jeune mec genre 10 ans de moins que moi, tranquille, interprété par John Foster, et ils se disent ok, on y va, hop hop, et puis elle se dit tiens, je me ferais bien un petit bébé là, un peu sur le coup, et donc ils font le bébé, mais comme accord et tout, ce seront des relations platoniques de parents, c'est-à-dire que ils ont fait crac-crac une fois pour faire le bébé, et maintenant c'est terminé, mais ils vont quand même élever le bébé ensemble. Alors ça peut être sympathique et tout, surtout quand on connaît le talent de Jenna Elfman en ce qui concerne la comédie de situation. À côté de John Foster, il y a également Groucho. Ah oui, rappelez-vous Groucho, Beverly Hills, Melrose Place plutôt. Ashley Jensen, bon, ça peut le faire quand même, c'est sur Teva. Et là, Teva, elle a bonne ou mauvaise idée, hein, vous le prenez comme vous voulez, mais vu les habitudes de consommation de plus en plus déviantes que je remarque chez mes collègues et sur l'ensemble de la situation de la population, ça m'étonne pas trop. Donc Teva vous diffuse mardi à 20h35, c'est le format sitcom dans les 25 minutes, toute la première saison 1 dans la soirée. Vous êtes pas content? Ah ben voilà, je le savais. Sinon, séance de rattrapage en ce qui concerne, vous connaissez, vous êtes des geeks, vous êtes complètement dans le net et tout, la chanson du dimanche, bien entendu.
Bien sûr.
Ah bah oui, et la chanson du dimanche, la série, ça y est, c'est sur Comédie. Avec séance de rattrapage, hein, comme la semaine dernière, j'ai pas pu vous prévenir des premières
Avec des rires enregistrés, malheureusement, j'ai vu, parce qu'ils ont foutu sur le net, et ça fait peur. Mon Dieu, que c'est mauvais.
C'est un petit peu dommage, parce que...
C'est complètement insupportable, ça tombe à plat. Ils sont capables de 100 fois mieux.
Un petit truc de regret, il y a des trucs qu'on regrette, on se dit, ah, c'est dommage, ça a l'air un peu téléphoné, certains trucs et tout, quoi. Peut-être qu'ils ont été, peut-être qu'ils sont impressionnés, qu'ils se mettent la barre un petit peu trop haut par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire et que ça doit peut-être les brider. Enfin, on ne sait pas. C'est l'impression que j'en ai. Enfin, pour juger sur pièce.
Le résumé, ça, c'est l'histoire en fait de deux artistes de rue gauchistes mal subventionnés qui sont obligés de vivre en colocation et qui vivent plein d'aventures dans leur quartier avec d'autres gauchistes et bobos qui vivaient là.
Voilà, c'est ça. Alors,
Politique à part, c'est vraiment dommage parce que eux, ils ont tout leur truc, c'est les chansons et tout ça. Ça, ils l'ont fait. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, tous les intervenants autour surjouent. Et déjà, quand ils essaient de faire la comédie, c'est pas forcément naturel parce que c'est pas trop leur métier. Quand les autres aussi ne savent pas jouer, c'est un peu catastrophique. Et il y a plein de gens qui disent que c'est très pompé sur une série américaine.
Mais c'est pas n'importe qui. C'est ce que j'allais dire. Ça fait du Friends, quoi, la situation, je veux dire, le fait de la coloc et tout le bordel. Jugez par vous-même. De toute façon, il y a une séance de rattrapage, c'est demain soir à 23h, donc les 4 premiers épisodes. Et sinon, les épisodes sont diffusés en prime time le jeudi en prime time, donc sur la chaîne Comédie. C'est la chanson du dimanche, la série. À la vôtre, hein.
Oula. 13h37, c'est la minute lite.
Oui, un film par jour, si possible japonais. Et au lit. J'ai retenu.
Pas mal.
Alors ce soir, j'ai ramé. Je peux vous dire que j'ai ramé.
Je vais mettre la musique de Street Fighter.
Tu peux pas savoir. Alors ce soir, déjà, ça aussi, j'avais oublié de vous en parler quand il y avait le début de diffusion. C'est un petit peu dommage parce qu'on a loupé vraiment très très bons moments. Mais il en reste quand même. C'est la rediffusion ce soir sur Arte à 22h15 de cette série de téléfilms français. Suite Noire, avec ce soir donc
deux téléfilms donc dans cette collection Suite Noire. Tout d'abord La Reine des Cônes de Guillaume Niclou 2009, donc hein, ce sont tous des téléfilms qui datent d'il y a deux ans, donc avec Clément Hervieux, Léger, Yves Verhoeven. Alors une histoire absolument abracadrante d'un mec qui est bon homosexuel, qui veut changer de sexe et qui doit se procurer du pognon pour ça, et donc il va utiliser des moyens un petit peu, on va dire, mais ça va lui retomber sur le coin du bec, et pas qu'à lui, mais c'est vraiment très très bien et tout, hein, c'est...
La série noire a vraiment été étonnante sur l'écriture. Hein.
Ouais. Et on a en deuxième partie, donc à 23h15, c'est-à-dire une heure après, Envoyé la fracture de Claire Denis, de Claire Devers, pardon, quoi, également un petit téléfilm d'une heure.
Oui, parce que Claire Denis, c'est une bande dessinée.
Claire Denis, je confondais avec Claire Denis, non, c'est Claire Devers, d'accord. Donc c'est ce soir sur Arte à partir de 22h15, ne loupez pas, c'est vraiment très très bien, c'est une bonne initiative. Au départ c'était passé le dimanche soir, très tard, à partir de 11h, 11h30 le dimanche soir sur France 3. Là c'est une bonne idée qu'Arte a de rediffuser donc ces petits polars. Demain sur RTL9 à 15h30, Karate Kid de John J. Alvinson. Qui lui l'a popularisé au cinéma, le renouveau de la boxe avec Rocky, et ensuite il s'est dit ah bah maintenant je vais faire le karaté, et puis il a fait Karate Kid.
Ah, je savais pas que c'était le même mec qui avait fait les deux.
Si, John J. Wilson bien sûr, ah, quand même, avec donc Ralph Macchio et Pat Morita bien sûr, également William Zabka, ne pas oublier William Zabka, hein, jeune d'ailleurs dans Karate Kid. Et on a également une petite curiosité sur FX, hein, qui n'est pas japonaise du tout, mais c'est on va dire l'original, mais il y a toujours eu un truc avant, donc c'est difficile de dire quel est l'original. Là, c'est Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, de Gerald King, film anglais de 1936.
Ouais.
Et ça, c'est sur FX, donc demain soir, à partir de 21h. Sinon, lundi, sur Canal Plus Décalé, à 20h45, Ninja Assassin, de James McTeague, avec Rain, je fais mon Dwayne Johnson, mon gars, et Naomi Harris pour la caution féminine avec ce qu'il faut de rebondi à l'intérieur du soutien-gorge. Mardi, sur Ciné-Cinéma Frisson, K20, l'homme aux 20 visages de Shimako Sato avec Takeshi Kaneshiro, Takako Matsu et Yuki Imai. Donc, l'histoire d'un type hein, qui... c'est l'histoire d'un acrobate et qui est également on va dire transformiste mais pour son spectacle, et qui se fait prendre comme cible par la police, alors qu'il y a un cambrioleur professionnel qui change également de tenue et qui a également pratiquement la même tenue que lui, et donc il se fait confondre et tout, et puis bon bah voilà quoi, mais c'est assez sympathique, ça cesse quand même regarder. Mais mercredi sur Disney Cinemagic, là-haut, rien à dire de plus, c'est le film du jour.
Oui.
Le film du jour, il n'y a pas de problème. De toute façon, jeudi sur Cinéma Frisson à 22h25. Alors là, j'ai cherché, et je suis tombé à côté du Japon. Avec The Chaser à 22h25.
Ah oui,
Hong Jing,
c'est du lourd.
Ouais.
Ne soyez pas dépressif avant de regarder le film. Hein.
Voilà, c'est ça. Et si vous êtes dépressif après avoir regardé ce film, eh bien dites-vous bien que vendredi prochain, sur Ciné Cinéma Classique, un film qui va vous alléger l'esprit.
Oula.
Qui va vous
ça, c'est filer du coup,
la
ça,
banane.
C'est sûr.
Yoshiwara de Max Ophuls en 1937. Michiko Tanaka, Pierre-Richard Wilm dans le rôle d'un espion russe qui va devoir... mais c'est vrai ce que je dis en plus, quoi. Qui va devoir draguer Michiko, quoi, pour lui subtiliser des secrets d'alcôve et tout. Ah ouais, c'est très très beau. Avec Sesue Ayakawa également. Yoshiwara, donc c'est vendredi prochain sur Ciné-Cinéma Classique, un film de Max Ophuls. Et également, vendredi prochain sur Orange Cinémax, Soleil Levant de Philippe Kaufman avec Kari Hiroyuki Tagawa et Sean Connery, bien sûr, aussi un petit peu. Hein.
Et
Harvey Keitel aussi, quoi.
Mais un très 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 bon polar.
Ouais, un
vraiment
bon
agréable.
Polar.
J'ai lu récemment d'ailleurs la novélisation. C'est tout aussi intéressant. Les mecs sont bien partis.
Ah non, mais c'est pas une novélisation. Soleil Levant, c'est d'après. C'est pas Crichton qui a fait
le Si, bouquin. Si, c'est Crichton.
C'est pas une novélisation. Hein. C'est
Il a fait dans un full day, il me semble, de la production.
Non, mais c'est le bouquin qui a été adapté en film.
Une fois, Crichton fait un truc intéressant parce que si vous lisez Jurassic Park. Bon, nos invités sont partis, les bouteilles sont finies, la nourriture aussi. Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire la préparation du départ de l'émission et donc résumer pour ceux qui nous ont suivis en direct?
Oui, alors nous avions comme invité Sébastien Laurent et Rafi pour le TGS Oanami. C'était une émission spéciale Japon, ou presque. Nous avions du manga pré-publié, un poisson d'avril auto-édité, une fille qui se fait tripoter, du glop up and down, du glock up and down, pardon, du beat Takeshi, du rebondi dans le soutien-gorge et un film par jour, si possible japonais, et au lit.
Non, d'un crayon de couleur, vous avez oublié tout ça, mais pas de problème, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, suivre les liens qu'on vous a indiqués à l'antenne, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr, vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. À Toulouse, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Mais on est en continu 24h/24 sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, il aura lieu normalement dans 15 jours parce que je pense que la semaine prochaine, on va se faire une sortie et je vous laisse deviner où, mais je crois que ce sera...
Je crois qu'on l'a dit, hein.
Oui, un petit peu en long, en large, en travers. Enfin bon, voilà, donc on va se retrouver dans 15 jours, même heure, même fréquence, avec le tas de mangas que j'ai pas chroniqué du coup, et plein d'autres choses. Ciao, bye bye, et si possible, pas la bouche pleine. Et du sport qui prend la suite quand il aura fini de mâchouiller le nougat.